Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
France Pinet.
Il est 13h, salut à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver sur RMC pour lancer cette magnifique journée de sport avec, pour m'accompagner, Sébastien Piocelle. Salut Seb.
Salut François, bonjour à tous.
On va suivre avec toi bien sûr la Ligue 1, la 18e journée et Lille-Lorient. À Lille, on retrouve Jean Baumel. Salut Gibo.
Salut François, salut Seb, bonjour à toutes et à tous.
Salut Gibo.
C'est parti entre les deux équipes, entre Lille et Lorient.
Exactement, avec des Lillois 7e au coup d'envoi hein, puisqu'il y a eu des matchs entre temps et bah, des Lorientais avant-dernier hein, qui n'ont connu que deux succès depuis le début de saison et pas mal de changements, on aura le temps d'en reparler, mais c'est parti depuis exactement 45 secondes, 0-0 des Lillois bah, qui peuvent faire un joli coup en cas de succès, remonter à la 4e place là, avec une percée de Thiago Santos. La compo, je vous la donne rapidement côté Lillois. On va suivre d'abord l'action du Portugais, le centre de Thiago Santos sur le deuxième poteau. Ouais, il y avait la montée de Goodmanson. Voilà, Goodmanson, c'est la surprise. C'est le joueur qui n'était pas prévu. On pensait voir Haraldsson. Côté gauche de l'attaque lilloise. Donc Chevalier, bien sûr, dans le but en défense. Ismaili à gauche. Alexandre Yoro, la charnière habituelle, eh bien, est titulaire, bien sûr. Thiago Santos à droite. En l'absence de Ben Taleb, excellent avec Lille, parti avec l'Algérie pour la CAN. Ça sera Angel Gomez avec André. C'est pas non plus une méga surprise qu'Angel Gomez a l'habitude avec André. Yazid juste devant et sur les côtés. Zegrova à droite, attention, avec une occasion énorme là pour les Lorientais avec Tosin qui voit ce ballon passer juste à côté du poteau gauche de Lucas Chevalier. Il réclame quelque chose, l'attaquant Merlu.
Je sais pas qui lui a donné ce ballon là, on revoit pas, c'est un petit peu loin, mais il est magnifique ce ballon là, juste dans le dos du Roux là.
T'as vu l'effet du ballon qui revient vers lui.
Ouais, et puis dans le bon espace, ouais, je pense qu'elle a été touchée.
Ah ouais, en tout cas, c'était une magnifique action. Ça va peut-être leur donner un peu de confiance au joueur de Régis Lebris. Et je vous le disais, donc en attaque côté lillois, Goodmanson avec David Yazice et Zegrova. Voilà, première alerte pour les Dogs hein, qui ont failli se faire surprendre par Tosin, l'attaquant des Merlus. 2 minutes de jeu, 0-0. La compo de Lorient avec Mvogou dans le but. En défense, Touré, Pelon, Mouyokolo, hein, défense à 3. Théo Lebris à gauche, Silva à droite, Bakayoko à Bergel pour les milieux de terrain, Carrie, Tosin et Ponceau pour les joueurs offensifs. On va suivre l'action là de Zegrova. C'est bien parti dans cette rencontre, il n'y a pas vraiment de ronde d'observation. Le centre mal dégagé, Yazice qui a essayé de contrôler pour enchaîner la frappe, mais c'est dégagé par la défense lorientaise. Ça revient vite avec une faute, ouais, un très bon coup franc, une faute sur Angel Gomez, faute réalisée par Laurent Bergel, le capitaine des Merlus. Et très bon coup franc, bon, on s'ennuie pas les amis hein.
C'est bien parti.
On vient de démarrer 3 fort, minutes et
c'est pour le match de 13h.
Ah oui, carrément. En plus, on a eu de la neige et un peu de pluie, il fait froid, tout était prêt pour que ce soit pas terrible. Et ben voilà, tant mieux pour nous.
Le toit ouvert ou pas?
Oui, le toit ouvert, ouais. On était un peu étonnés parce que ce matin on a eu de la neige, bon, qui ne tient pas, heureusement, mais on savait hier que le toit était ouvert. Alors voilà, la grande question c'est de savoir jusqu'à. On sait que ça met une demi-heure pour ouvrir le toit et qu'il ne faut pas de public. Mais est-ce que la décision peut être prise, je ne sais pas, 2-3 heures avant le coup d'envoi? C'est. Voilà, ça c'est une grande question.
On va suivre
technique.
Ce coup franc avec Yazice.
Oui, le pied gauche du Turc, peut-être le petit décalage d'Angel Gomez, mais je pense qu'il va l'attendre direct. On est à peu près à 25 mètres. C'est parti, et ça rend du poteau. Et c'est bien détourné par Mvogo qui concède le corner. Voilà, première tentative cadrée de cette rencontre au bout de 3 minutes et 40 secondes de jeu. Il y a eu une tentative hein, pour Tosin qui n'était pas cadrée il y a une bonne minute. Et là, c'est un coup franc pas hyper puissant, mais il y avait un petit rebond qui était vicieux.
Bien placé, vicieux, Sébastien. Ouais. Le petit rebond juste avant, il aurait pu surprendre. Prendre Mvogo et qui a préféré la mettre en corner.
Attention, le corner joue en deux temps avec Zegrova pour Goodmanson. Le Kosovar qui préfère ressortir le ballon côté gauche vers Angel Gomez. Le centre un peu raté. Hein. Il a fait à terre le jeune international espoir anglais et ça va être récupéré par Bergel qui va essayer d'assurer. Oh, là, il se fait surprendre. Ça aurait pu coûter cher. Il a voulu protéger le ballon et le laisser sortir en 6 mètres. Mais l'intervention de Goodmanson a été surprenante. Mais heureusement, d'ailleurs, pour les Merlus, ça n'a pas coûté trop cher. Alors que là, on revoit sur nos images, ouais. Ouais, la belle parade et le beau coup franc de Yazice. Ça démarre bien, 4-30 dans le temps, 0-0 entre Lille et Lorient.
Et déjà pas mal d'occasions, vous l'avez compris, pour ce Lille-Lorient. On va y revenir, bien sûr. On te retrouve très vite, Gibo. Je vous rappelle aussi à 15h à suivre en Ligue 1 Nantes-Clermont-Metz-Toulouse. Brest-Montpellier à 17h05, Le Havre-Lyon et puis le choc à 20h45. À suivre évidemment aussi sur RMC, Lens Paris Saint-Germain. On va aller du côté du tennis pour retrouver Eric Salio qui est à Melbourne pour suivre pour RMC l'Open d'Australie. C'est le premier tour. Salut Eric.
Salut François, salut à tous.
Ah oui, tu es avec nous. C'était pas forcément prévu que le match de Djokovic s'étende comme ça un petit peu. Il a eu du fil à retordre. Il a du fil à retordre en ce moment face à un Croate, Prismic.
Mais il va s'en sortir selon toute vraisemblance puisque il vient se procurer 3 balles de match après presque 4 heures d'un combat vraiment inattendu parce que Prismic, personne ne le connaît, c'est un jeune croate de 18 ans qui a franchi les qualifs et qui est revenu à une manche partout face à Djokovic, qui a même eu le break au milieu du troisième set et finalement Djokovic, grâce à son expérience, eh bien il est parvenu à renverser la table et là il se procure sa première balle de match donc pour boucler ce premier tour avec un service gagnant signé du Croate. Donc la première balle et première balle de match est effacée par Dino Prismic, qui est une sorte de clone hein, de Novak Djokovic, un peu le même jeu. À mon avis, c'est son idole à ce jeune Croate. Et c'est vrai qu'il a posé d'énormes problèmes à Djokovic qu'on n'a pas reconnu, beaucoup de fautes directes inhabituelles, donc c'est un tour de chauffe auquel il ne s'attendait pas, mais bon, il va s'en sortir, mais je pense qu'il va aussi pousser un énorme ouf de soulagement parce qu'il y a un moment on s'est dit mais il va passer à la trappe. C'est pas possible s'il continue comme ça. On va voir si donc il va boucler cette histoire dans les secondes qui viennent. François, on va suivre cette deuxième balle de match, on a le temps, à moins qu'il y a
bien sûr vas-y Gibo
chez Gibo
viendra nous voir s'il se passe
il va me respecter. Bah, c'est un long rallye. Cette fois-ci, Djokovic a peut-être la possibilité de conclure avec un garçon qui, comme, accuse la fatigue. Mais non. Il part encore une fois à la faute côté coup droit. Donc, deuxième balle de match sauvé par Dino Prismic. Ça doit l'agacer prodigieusement.
Djokovic, c'est un qualifié à Prismic, on est d'accord. Hein.
Absolument.
Des qualifications,
il sort des qualifs. Il est assez loin au classement. Hein. Il est 178e. Ah oui. C'est la première fois qu'il dispute des qualifs dans les grands chelems, parce que juste avant il n'y avait pas le classement. Attention, c'est pas un inconnu pour les spécialistes de tennis parce que il avait gagné Roland Garros junior. Donc tu vois, on savait que ce garçon avait beaucoup de qualité. Et sur sa troisième balle de match, non mais c'est pas possible, Novak. Que se passe-t-il alors que Prismic, on le voit, il est au bout physiquement, il s'étire, je pense que les crampes arrivent, mais il s'accroche, hein. Il était mené 4 jeux à 0 dans cette quatrième manche, donc vous voyez, il est revenu à 3-5. Est-ce que ça va suffire pour sauver sa mise en jeu et obliger Novak Djokovic à servir pour le gain du match? Peut-être, c'est pas impossible, hein, parce que c'est vraiment un garçon qui a un tempérament de guerrier, et donc Novak Djokovic qui doit vraiment bosser comme jamais face à ce garçon qui va sûrement lui tenir tête pendant près de 4 heures. Je regarde la pendule, on est à 3h51. Novak Djokovic qui là est en train de malmener, de balloter son adversaire, mais il ne parvient pas à faire le point gagnant. Il tente une amortie, elle est belle, il ne va pas pouvoir y aller. Il y va dessus, Prismic, dans sa sorte. Nouvelle balle de match à venir pour le numéro 1 mondial. Dans quelques secondes, la numéro 4. Et on voit toute l'inquiétude, presque l'incompréhension dans le clan de Novak Djokovic, à commencer par Goran Ivanišević qui est croate, donc je pense qu'il avait quand même des informations sur ce jeune Prismic, mais je pense qu'ils ne reconnaissent pas leur joueur qui
avait très peu joué en début d'année. En tout cas, idole Djoko, il a pris le calme même dans les moments compliqués de Djokovic, hein. Il lui a pris ça, Prismic, hein, parce qu'il s'en est bien sorti. Nouvelle balle de match quand même pour Djoko.
Ouais, c'est vraiment ce qui ressort vraiment, c'est l'esprit guerrier de ce garçon qui joue avec revers à deux mains, coup droit lifté, tu sens qu'il veut pas lâcher un pouce de terrain, et c'est comme ça qu'il est parvenu à perturber la mécanique du Serbe, notamment dans un tie-break du deuxième set qui était vraiment très serré avec une bonne première. C'est sauvé, c'est encore sauvé.
Incroyable.
Vous l'entendez, le public qui l'encourage parce que ils sont vraiment admiratifs du courage, de la bravoure de ce jeune Prismic qui vient donc d'effacer comme ça 4 balles de match face à Novak Djokovic qui devrait être sous la douche. Une pensée au passage pour Arina Zabalenka, la tenante de titre, qui doit jouer derrière alors qu'il est 23h ici à Melbourne. Zabalenka qui va gronder Novak Djokovic en disant mais qu'est-ce que tu m'as fait là, moi je pensais me coucher tôt là. 23h 23h30, l'entrée sur le court pour la Bélarusse, c'est pas sérieux, mais c'est comme ça, c'est la beauté du tennis, ce sont les night sessions avec un combat énorme. Djokovic qui part encore à la faute, donc balle pour revenir à 4 jeux à 5. pour Prismic. L'affaire n'est pas encore entendue.
Ouais, toujours 0-0, je vous rappelle, entre Lille et Lorient, bien évidemment. Dès qu'il se passe quelque chose, on retrouve Jean Baumel. On va suivre avec toi, bien évidemment, la fin de cette rencontre pour Novak Djokovic, le début de l'Open d'Australie. Le tenant du titre, Djokovic, accroché par cet étonnant qualifié d'Ino Prismic, qui a donc une balle pour revenir à 5-4.
Ouais, je vous glisse au passage qu'il y a eu deux victoires françaises quand même, hein, pour faire un peu le bilan de la journée. 2-5, voilà, le bilan est moyen. Qualif de Quentin Alice en 4-7 contre Lloyd Harris, un qualifié sud-africain. Puis qualif aussi de Diane Paris, qui n'avait jamais gagné un match ici à Melbourne et qui a sorti quand même la tête de série numéro 30. Donc ça veut dire qu'elle s'ouvre le tableau, la boulonnaise. Voilà, jeu Prismic, François.
Très bien.
Prismic qui regagne sa chaise. Il va pouvoir souffler un bon coup. Et pourquoi pas espérer une petite défaillance de Djokovic qui va devoir servir pour le gain de la rencontre.
Bah, ça doit être rare quand même, un Djoko qui rate comme ça 4 balles de match. Eric, on te retrouve bien évidemment pour la suite de ce combat entre le Serbe et le Croate. On va aller voir Julien Richard qui suit pour nous le biathlon à Ruppolding. Salut Julien.
Salut François, salut à toutes et à tous.
Oui, on a pris un peu de temps à cause de Djokovic. Et... les dames sont arrivées, c'était la poursuite aujourd'hui.
Les dames, elles, n'ont pas pris leur temps et surtout pas Lisa Vito. L'italienne vainqueur aujourd'hui sur cette poursuite à Ruppolding, deuxième victoire cette saison pour l'italienne qui devance Ingrid Tendrevold. La première française Lou Jeanmonod est quatrième à 30 secondes donc au pied du podium comme sur le sprint où elle avait pris également la quatrième place. La mauvaise nouvelle du jour c'est que Justine Brezaz-Boucher qui ne termine que septième entre guillemets, elle a quand même fait une belle remontée sur la fin de course, septième, eh bien va perdre son dossard jaune de leader du classement général de la Coupe du Monde pour 9 points. Elle va le céder à la Norvégienne Ingrid Tendrevold. Ça nous promet une super bataille sur la fin de saison. Il va rester 9 courses individuelles qui vont compter pour le classement général de la Coupe du Monde. 9 points d'écart seulement, rien n'est fait sur ce général et pour ce dossard jaune qu'elle va donc céder, peut-être, on l'espère temporairement, à Ingrid Tendrevold. Julia Simon termine 13e de cette course aujourd'hui, 5 fautes derrière la carabine à 1 minute et 13 secondes de la vainqueur.
Et on te retrouve à 14h45 pour les garçons. Hein.
Oui, sans Quentin Fillon-Maillet qui a déclaré forfait, qui était hors du coup sur le sprint et qui va se repréparer peut-être pour la dernière étape de Coupe du Monde la semaine prochaine avant les championnats du monde et essayer de retrouver un peu la forme.
Merci Julien.
Votre émission sur RMC avec Nikon Verre Optique. Ne manquez aucun détail de la compétition de biathlon. Ceci est un dispositif médical.
13h12 sur RMC. Le temps, le score entre Lille et Lorient. 18e journée de Ligue 1, Gibo.
12 minutes 0-0, grosse domination lilloise.
Et on revient dans un instant pour suivre la fin du combat de Djokovic face à Prismic et la suite, bien sûr, de ce match de Ligue 1. Et puis notre mag olympique. Ne ratez pas les nouvelles de nos athlètes à quelques mois des Jeux Olympiques de Paris. Restez avec nous sur RMC. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
François Pinet.
13h16 sur RMC. Lille-Lorient 0-0. Pour l'instant, on retourne dans un instant à Lille, mais d'abord priorité au tennis puisqu'il y a des nouvelles balles de match pour Novak Djokovic à Melbourne. C'est le premier tour de l'Open d'Australie. Eric Salio.
La cinquième qui est encore gâchée par Novak Djokovic avec un coup droit qui sort de 2 bons mètres. Sur la quatrième, c'est Prismic qui a touché les lignes. Donc ce garçon ne veut pas mourir. 5-4, 40-30, François. Est-ce que Djokovic va boucler cette affaire? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce match va atteindre les 4 heures de jeu. Et ça, dans les paris RMC, ça valait une cote énorme, ah oui, à mon avis. Il faudrait demander à Christophe Payet. Mais bon, c'est pas le genre de cote qui est proposé. Mais c'est hallucinant, quoi. Personne ne pensait que Djokovic allait
souffler
autant.
C'est pas le genre de code qu'il trouve en plus, Christophe Payet.
On le saurait.
Allez, la numéro
6. On va suivre cette balle de match.
La numéro 6, hein.
La 6, il me semble, ouais.
Est-ce que Prismic va de nouveau faire prolonger ce premier tour insensé qui ouvre le tournoi? Vous savez que c'est la première fois qu'on joue le dimanche. Bah, on s'en souviendra de ce Sunday Start ici à Melbourne avec un long rallye Djokovic qui insiste là. Il a une balle en revers assez facile. Voilà, c'est fait. C'est fait. 4h01 avec un score incroyable. 6-2, 6-7, 6-3, 6-4. Je pense qu'il y aura beaucoup de respect dans la poignée de main. Je pense que Djokovic découvrait ce garçon, voilà, poignée de main très sympa. Je traduis, tu m'as bien fait suer, hein, tu m'as bien fait suer, je m'y attendais pas. Mais en tout cas, Prismic, retenez ce nom, on le reverra. Sur Terre, il va être très très coriace, puisque je vous le rappelle, il avait gagné Roland Garros Junior il y a 6 mois. Et donc c'est un garçon qui s'est fait un nom. Djokovic qui l'applaudit, qui le montre du doigt. Applaudissez-le, il mérite. Ouais. C'est passé donc pour Djokovic. Il aura 2 jours de repos. Bah, ça tombe bien, ouais. Cette programmation pour lui. Il jouera un Australien au prochain tour, soit Popirine, soit Paul Mans. Mais comme ça a été compliqué
pour le numéro mondial.
Merci beaucoup Eric, et la victoire donc de Djokovic en direct sur RMC dans ce premier tour à l'Open d'Australie. Il y a une énorme occasion pour Lille face à Lorient.
Ouais, on va suivre d'abord le corner qui a suivi et ça va sortir une nouvelle fois, deuxième corner consécutif. Ah ouais, mais la relance d'Mvogo directement, mais un cadeau, une passe pour Zegrova qui donne vers Yazice qui a juste Mvogo qui fait un arrêt extraordinaire. Attention, le ballon qui, on réclame une faute mais il n'y a rien du tout, le jeu continue, le ballon est lillois, on est aux abords de la surface de réparation. Ah, le centre tir de la part d'Alexandro qui est contré, ça sera une touche pour les Lillois qui dominent.
Il s'ennuie un petit peu Mvogo du coup, parce que c'est vrai que les Lillois ont le ballon mais il n'y a pas eu de véritable occasion.
Non, là, ça fait deux très beaux arrêts quand même pour Mvogo. Hein.
Oui, là celui-là il était vraiment impressionnant, ouais. Celui-ci.
Mais heureusement pour lui.
Oui, c'est sûr qu'il était fautif au départ de l'action. C'était un cadeau pour Zegrova.
Des passes comme ça, aussi proches d'ailleurs, parce que tu peux rater une relance, mais quasiment à l'entrée de la surface de réparation pour Zegrova.
C'est la grosse difficulté qu'ont les Lorientais depuis le début du match, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à ressortir le ballon, ou alors il faut qu'ils arrivent à passer ce premier rideau. Éventuellement, ils pourront être un petit peu dangereux, mais ils n'arrivent pas. On le voit, beaucoup de ballons en touche, un bon pressing des Lillois, même s'il n'y a pas eu vraiment d'occasion franche, mis à part cette frappe là de Yajutse.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas intervention de la VAR là, parce que j'ai l'impression que Monsieur Gayoust attend ce qu'on lui dit dans l'oreillette. On réclamait quelque chose du côté lillois. Non, ça va être une touche pour le LOSC. Alors, domination des Lillois, 0-0, 19 minutes de jeu. Mais voilà, Lille n'aime pas les blocs bas et c'est ce que fait pour l'instant Lorient et ça passe pour le moment.
Dans un instant, toutes les infos sur les JO et les Jeux paralympiques dans le MAG olympique. Mais d'abord, on va aller du côté de Wengen en Suisse où en ce moment, il y a évidemment des manches de Coupe du Monde de ski. C'est le slalom aujourd'hui, la deuxième manche, et c'est Morgan Morin qui est au commentaire pour RMC. Salut Morgane.
Bonjour à tous. Trois premiers dossards en ont terminé avec cette manche, et l'américain Benjamin Ricci qui est en tête devant le tricolore, le français Paco Raza qui est deuxième à 13 centièmes, troisième position pour un belge. C'est le début de cette deuxième manche, vous savez, le départ inversé par rapport au résultat de la première. Ce sont les garçons qui ont terminé 30e, 29e, 28e. On remonte comme ça le classement. Le prochain tricolore à s'élancer un peu après 13h30, ce sera Steven Amier, 19e de la première manche, qui reste sur une 11e position à Adelboden. Puis vers 13h45, ce sera Clément Noël, 12e du premier exercice ce matin. Très déçu, il aura à cœur de se rattraper, lui qui réalise une saison pour l'instant moyenne. Il a déjà gagné deux fois dans sa carrière à Wengen. Le meilleur de la première manche, c'était un Norvégien, Atleli McGrath. Il a réalisé le meilleur chrono, il s'élancera en dernier dans cette course qui a été piquetée par son entraîneur.
Merci Morgan. Mathias, tu parles de Steven Amier. Dans 15 minutes, on sera avec Sébastien Amier, notre consultant, pour revenir sur cette folle semaine à Wengen, notamment cette lutte acharnée entre Cyprien Sarrazin, le français, et le suisse Marco Odermatt. Tout de suite, comme tous les week-ends, on va parler de JO et de Jeux paralympiques sur RMC à 13h20.
RMC, en route pour Paris 2024.
194 jours avant les Jeux Olympiques de Paris, 227 jours avant les Jeux Paralympiques. Tous les samedis, dimanches, on vous donne les derniers résultats, les nouvelles de nos athlètes. On vous fait découvrir aussi ceux qui feront les Jeux 2024. On accueille Léna Marjac de la rédaction RMC. Salut Léna.
Salut François, salut à tous.
On va commencer Léna avec l'Euro de handball, puisque les Français jouent aujourd'hui à 18h leur deuxième match.
Oui, ce sera face à la Suisse, et les Bleus ont débuté leur Euro en Allemagne par une belle victoire, hein, 39-29 contre la Macédoine. C'était devant 50 000 spectateurs dans le stade de Düsseldorf, et donc à 18h match cette fois à Berlin. Sur place, notre envoyé spécial Nicolas Paolorsi. Et ça y est Nicolas, l'Euro commence vraiment pour nos Bleus.
Oui, l'Euro commence vraiment parce que tu l'as dit Léna, ça a été un premier match particulier dans un stade de foot devant 54 000 supporters, un match historique pour la France, remporté facilement. Derrière, les Bleus ont eu 4 jours de repos, ils sont venus à Berlin, ils ont pu s'entraîner, mais d'habitude le rythme sur une compétition comme un Euro ou un championnat du monde, c'est de jouer tous les deux jours. Donc là ils piaffent un petit peu d'impatience, les Français, c'est vrai qu'ils nous disent que le temps est un petit peu long. Attention à la Suisse, adversaire à prendre très au sérieux ce soir, avec notamment un gardien de but très intéressant, Nicolas Portner, qui est double vainqueur de la Ligue des Champions. Andy Schmidt, aussi 40 ans, qui tire sa révérence comme Nicolas Karabatic et qui est une des stars du handball mondial. Donc ça va être un match très sérieux pour les Bleus, qui vont monter en puissance puisqu'ils termineront leur tour préliminaire face aux Allemands dans un contexte très hostile.
Merci Nicolas, et on te retrouve donc tout à l'heure à partir de 18h sur notre antenne pour nous faire vivre ce match.
Elena, on va prendre la direction des Pays-Bas tout de suite pour les championnats d'Europe de cyclisme sur piste.
Oui, direction la ville d'Apeldoorn, fin de ces championnats d'Europe de cyclisme sur piste. Aujourd'hui, la France a remporté 6 médailles pour l'instant, avec une seule en or. On retrouve notre envoyé spécial Arnaud Souk. Arnaud, pour cette dernière journée, on espère voir briller une Française. C'est Mathilde Gros en Kérine.
Absolument, qui sera engagé tout à l'heure à 14h30 dans l'équivalent des demi-finales de cette épreuve du Kérine. Elle a une série tout à fait accessible. Ça sera peut-être un petit peu moins le cas de l'autre française également engagée en demi, Marie-Divine Kouamé, qui aura dans sa série Léa-Sophie Friedrich et Emma Finoken, qui sont tout simplement deux des meilleures sprinteuses de la planète. D'autres chances éventuelles de médailles aujourd'hui. On suivra également en Kérine masculin Sébastien Vigier, déjà médaillé d'argent sur la vitesse par équipe il y a quelques jours. Et puis sur les épreuves d'endurance, les filles notamment de la Madison, Valentine Fortin et Marion Borras tenteront également de se hisser sur le podium. On surveillera aussi de près dans la course au point Oscar Nilsson Julien, un jeune franco-anglais qui a la nationalité sportive française en tout cas, et qui sera engagé tout à l'heure donc sur la course au point. Il a fait une superbe course scratch l'autre jour. On espère qu'il puisse, pourquoi pas, et bien rééditer tout cela et cette fois-ci monter sur le podium.
Merci beaucoup Arnaud, on suivra donc tous les résultats pendant la journée.
Toujours 0-0 bien sûr entre Lille et Lorient, 18e journée de Ligue 1. On va parler d'escrime avec toi Léna, parce qu'il y a en ce moment l'épreuve de Coupe du Monde de fleuret à Paris.
Oui, alors hier on avait la compétition individuelle, pas de médaille malheureusement pour nos Français et nos Françaises. Isaora Tibus s'incline en quart de finale à la mort subite 11-10, et chez les hommes Maxime Potti perd lui aussi en quart, c'était face à un Italien, mais c'est un résultat encourageant pour le Français.
À chaud, je suis déçu et triste. C'est un rêve d'enfant de la gagner. Du coup, je voulais gagner. Donc, triste d'avoir perdu. Ça se joue à pas grand-chose. Après, c'est notre sport. Avec un peu plus de recul, j'avais commencé le début de saison, j'avais pas gagné un match. Donc là, ça fait du bien de retrouver un niveau, de retrouver de l'adrénaline, de retrouver la bonne agressivité. Donc là-dessus, je suis content. Il y a eu un switch au niveau mental. Je sens que j'étais bien dans ma bulle, que je me suis retrouvé moi-même dans mon état d'esprit de combattant et d'athlète.
Alors, mais sans victoire depuis le début de la saison chez les hommes, Aymeric Clos, l'entraîneur du fleuret masculin, estime que la qualification olympique ajoute de la pression.
Une année olympique, c'est compliqué. C'est pas une année pour se qualifier au championnat du monde. Voilà, ça c'est tous les ans. Là, c'est une fois tous les quatre ans. Donc c'est pas la même approche. L'événement n'est pas le même. On sait que tout sportif de demi veut faire les Jeux. Je reviens toujours à mon mot. Il faut avoir du lâcher prise et presque foncer la tête baissée. Pas penser aux conséquences. C'est ce que je leur dis. À un moment donné, vous partez faire l'Everest, allez-y. Hein. Pensez pas à comment ça va vous dire. Ah ouais, mais alors si j'y arrive pas, parce que là non, tu y vas. Tu te casses la figure, ça fait partie du jeu, c'est le sport de haut niveau. En tout cas, tu y vas tête baissée, tu verras bien ce qui se passe.
Et à noter, hein, Kenzo Lefort, le fleurettiste, eh bien, s'est blessé au genou. Il passera donc une IRM et il n'est pas aligné aujourd'hui en compétition par équipe. Compétition qui est actuellement en cours. Pour le moment, les Français sont en huitième de finale face aux Allemands et les fleurettistes féminines sont elles aussi en huitième face à la Chine.
Et on va suivre ça bien sûr de très près, rmcsport.fr aussi pour tous les résultats. Évidemment, quand on parle de mag olympique, il y en a un dont on devrait parler en juillet prochain. C'est Léon Marchand. On va prendre de ses nouvelles, évidemment, le nageur français.
Oui, parce qu'il a parlé cette semaine dans une interview accordée à un média spécialisé SwimSwam, et le nageur français exilé aux États-Unis est revenu sur ses derniers mois un peu compliqués. La raison, un problème au sinus et une opération des dents de sagesse, mais depuis, Léon Marchand brille de nouveau quand même dans les bassins américains. Victoire sur 200 yards nage libre et 100 yards libre avec son université. Et la semaine prochaine, le nageur d'Arizona affrontera la meilleure faculté américaine, celle de Californie, et il a des objectifs bien clairs pour cette saison, c'est déjà de gagner le championnat universitaire et bien sûr aussi de briller aux Jeux Olympiques.
Ouais, il vaut mieux se faire opérer maintenant des dents de sagesse, hein, plutôt qu'avant une course aux Jeux Olympiques. Et puis Léna, on était chargé aussi pour nos cyclistes français, puisqu'il y aura le Tour de France bien sûr et les Jeux Olympiques.
Oui, et les deux vont s'enchaîner, et certains, s'ils sont qualifiés pour les Jeux Olympiques, eh bien enchaîneraient donc Tour de France et JO. Ça pourrait être le cas de Valentin Madouas de la Groupama FDJ, notre champion de France en titre, alors que Julien Alaphilippe, eh bien lui sera absent du Tour de France. Mais fera-t-il partie des quatre garçons sélectionnés par Thomas Vauclair pour les Jeux Olympiques ? C'est possible, puisque le sélectionneur ne se basera pas que sur les résultats du Tour pour faire son équipe.
On n'est pas obligé de faire le Tour de France pour être en forme aux Jeux Olympiques. C'est pas pénalisant de faire le Tour de France pour être en forme aux Jeux Olympiques. C'est vraiment au cas par cas. C'est une course particulière, les Jeux Olympiques, avec quatre coureurs maximum par équipe, dont la France. J'ai des noms en tête. Je ne suis pas fermé pour autant, mais dans ma tête, j'ai une liste. Après, je ne veux pas la dévoiler.
Merci beaucoup, Léna. Merci pour toutes ces infos olympiques.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.
Et on vous donne rendez-vous bien sûr tous les samedis à 14h, le dimanche à 13h pour ce MAG Olympique sur RMC jusqu'au JO de Paris et jusqu'au JO Paralympique de Paris 2024. Toujours avec Sébastien Piocel, l'intégral sport avec ce Lille-Lorient. On retrouve Jean Baumel à Lille avec des Lillois qui poussent mais qui ne trouvent pas la faille pour l'instant.
Ah, exactement, on a vu ensemble hein, deux occasions pour cadrer de la part des Lillois. Et bien durant la page olympique, il y a eu une tentative de Zegrova et d'Angel Gomez, des frappes mais bien stoppées par Mbogo hein, qui a fait une petite bévue dans une relance, mais sinon il est sur les arrêts et ça réconforte. Oh là là, avec une relance encore un peu compliquée là, ils s'en sortent bien, ce qu'il y avait encore Zegrova pas très loin.
Difficulté tout seul aussi. Ah, ouais.
Mais tu te dis pas ça. Oh là là, avec une mauvaise relance Zegrova, le ballon avec Yazidche qui va essayer de la remettre, mais il se complique la tâche peut-être le Turc là, il est face à et s'est fait déposséder du ballon, mais ils ont dû même à se dégager, les l'orienter. Franchement, pour l'instant, et ils s'en sortent très très bien, 0-0. Bah, c'est pas cher payé pour les Lillois, mais c'est tant mieux pour les Lorientais qui, pour l'instant, prennent un point à Lille où c'est pas facile de gagner. Hein,
Après, Gibo, je sais pas ce que t'en penses, mais je les trouve un petit peu trop prévisibles, les Lillois.
Oui.
Forcément, il y a une ligne de 5, une ligne de 4 du côté de Lorient avec seul Tosin qui est un petit peu plus haut et encore. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour créer des différences. Et là, encore une fois, on voit l'absence de Nabil Bentaleb parce que, du coup, Angel Gomez joue plus bas. Angel Gomez ferait vraiment du bien dans ce poste de numéro 10. Là, il est très très bon dans les petits espaces pour accélérer un peu le jeu. Et puis aussi la fixation et le gelon de Nabil Bentaleb aussi fait un peu défaut à cette équipe de Lille.
Ah bah le gelon de Bentaleb, t'as bien fait de le souligner parce que c'est vraiment un régal. Hein. On n'en voit pas beaucoup des joueurs d'ailleurs comme ça qui ont qui te font des transversales de 30, 40, 50 mètres magnifiques.
Au bon moment en plus. C'est-à-dire qu'il les fait pas, il attend que ça soit qu'il y ait une fixation d'un côté et de l'autre côté, c'est à 40, 50 mètres, ça bouge pas.
Lui qui va jouer avec l'Algérie et bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations.
Aussi qui le deuxième Lillois qui est parti aussi avec l'Algérie pour les Fennecs hein, c'est deux joueurs importants pour Lille, surtout Bentaleb parce que Ounas ne joue pas beaucoup, malheureusement il est souvent blessé donc il perd souvent sa place et
mais il est quand même à la canne, il est souvent blessé.
Ah oui, bien sûr qu'il y est parce que lui tu peux le faire rentrer un petit quart d'heure, il peut te faire
en
un
joker,
exploit.
C'est pas mal, ouais.
Ça fait attention là, avec Thiago Santos, c'est-il faute, bousculé, non, l'arbitre ne dit rien mais se relève le portugais, il y a faute, juste à l'entrée de la surface. Tout juste,
on va le suivre peut-être parce que c'est comme un mini corner. On le sent, je sais pas, c'est toi l'ancien joueur pro Sébastien.
En tout cas, c'est bien placé hein, c'est assez bien placé, il peut y avoir une combinaison.
Je sais pas comment Lorient va tenir comme ça quand même pendant 90 minutes.
C'est le risque parce que, mis à part la toute première de Tosin, on s'était dit tiens, ils vont exploiter les transitions. C'est la seule. Sinon, on les voit pas. Quand il récupère derrière le ballon, il la perd de suite.
Depuis Chevalier, il est obligé de sortir de sa surface. Il fait des petits sauts pour pas avoir froid parce que franchement, il fait un peu frisqué au stade Pierre-Mauroy. Mais comme tu disais, Seb, c'est vrai que le jeu de Lille est prévisible, mais Lille n'aime pas jouer contre des blocs bas et comme beaucoup d'équipes.
Et en avant-match, j'en parlais avec François, c'est aussi souvent depuis qu'il y a Fonseca, souvent les matchs importants comme ça, il faut qu'ils passent le cap. Ils ont, tu vois, hier Nice et Monaco ont perdu, c'est peut-être l'occasion.
Strasbourg, tu l'as perdu avant la trêve. Clermont, t'as fait 0-0. Voilà, alors à Lorient, match aller, ils en ont pris 4, hein, ils ont perdu 4-1. La plus grosse déception, la plus grosse claque cette saison du LOSC. Allez, le coup franc pour le pied gauche de Yazidche. On est à peu près à 2 mètres de la sortie de but, à l'entrée de la surface de réparation, côté droit, pour vous situer où est placé le ballon. Monsieur Gaillous qui discute avec Alexandro, notamment, parce que ça, je pense, tiraillé dans la surface de réparation. Voilà, le coup de sifflet, ça va pouvoir être enfin joué. Ce premier poteau avec un dégagement comme on peut, que Goodmanson est resté au sol, mais je pense qu'il n'y a rien du tout pour le Suédois. Mais le ballon est déjà en faveur des nordistes. On vient d'entrer dans le dernier quart d'heure de cette première période. Lille domine, Lille a eu 1, 2, 3, 4 occasions nettes, mais Mvogo était bon et puis surtout ils sont un peu prévisibles les Lillois, c'est ce que disait Sab, il a bien raison.
0-0, il a toujours raison Sébastien Piocel. On revient dans un instant pour suivre bien sûr ce Lille-Lorient avec toi Gibo. On revient également pour parler de ski avec la deuxième manche attendue de Clément Noël, le champion olympique de slalom à Wengen, lui qui partira, qui a terminé 12e de la première manche de ce slalom, et puis le rugby puisqu'il y a à partir de 14h, début de la journée de Coupe d'Europe de rugby pour les clubs français avec un match entre Basse, le club anglais, et le Racing 92. On en parle avec Winnie Claret dans un instant. Restez avec nous sur RMC, à tout de suite.
RMC, Intégral Sport, François Pinet.
Il est 13h36, vous écoutez RMC en direct, l'intégral sport avec Sébastien Piocelle. Dans un instant, on va parler de Coupe d'Europe de rugby avec trois matchs au programme pour les clubs français ce dimanche. Dans 24 minutes maintenant, coup d'envoi de Basse Racing 92. Il y a 0-0 entre Lille et Lorient, on y retourne dans un instant. Et puis il y a le slalom de Wengen, deuxième manche que l'on suit également en direct avec Morgane Morey au commentaire. Morgane, comment ça se passe pour les Français?
Steven Amier, deuxième Français à s'élancer. Il était 19e de la première manche. Il a signé le chrono de référence, battu dans la foulée par le médaillé olympique, l'Autrichien Michael Matt, qui est en tête devant Steven Amier, le Français qui est 28 centièmes derrière son adversaire. L'autre tricolore qui est parti, c'est Paco Raza, 1 seconde 14. Il est marge.
Et le Bulinois! Le Bulinois sur un coup franc et une tête! De Jonathan David, l'homme qui était en difficulté en début de saison pour les buts, et bien là il y a un but de la tête où il a été surpris. Mvogo, il était côté gauche face à la cage et il la place bien, elle n'est pas puissante, mais voilà, c'est une tête très très bien placée de l'international canadien qui marque par l'occasion son sixième but. Voilà, à quelques minutes de la mi-temps, Malil qui poussait, Lille a marqué sur un coup de pied arrêté et une tête voilà, inhabituelle hein, Seb, parce que des comme ça déplacés, il n'y en met pas souvent, Jonathan David.
Ah mais elle est belle.
C'est surtout que je me demande, il a touché quoi, 3-4 ballons depuis le début du match, beaucoup, ouais. on l'a très peu vu. Et puis pour une équipe qui fait que défendre comme Lorient, la moindre des choses c'est sur coup de pied arrêté d'être quand même plus vigilant. Et là, trop facile. Après il la met magnifiquement bien à l'opposé, il peut rien faire, Mvogo.
Puis Alexandro et David derrière, et au marquage ils sont pas bien. Hein, ouais. L'orienter.
Lorient, ça peut pas tenir comme ça tout un match.
Je suis d'accord, mais après sur une action, mais là encore une fois, d'ailleurs le coup franc là, c'est encore une erreur défensive où ils rendent le ballon.
Ils rendent très très vite le ballon.
Voilà, et derrière ils sont sanctionnés.
Et pour l'instant, c'est une bonne opération, Gibo, pour Lille, hein, si ça reste là, bien évidemment.
À la quatrième place pour l'instant, hein, bien sûr, il y a encore du changement possible dans cette journée de championnat, mais voilà, Lille qui est toujours quasiment depuis le début de saison dans le top 5. Pour l'instant, ils sont plutôt bien, les Nordistes. Ils passent quatrième ex aequo avec Brest, hein, si je me trompe pas.
Brest qui joue tout à l'heure contre
Montpellier. Une meilleure différence de but.
Ils reviennent à 2 points de Monaco.
Ça se resserre.
Effectivement, 1-0 pour Lille avec un Jonathan David buteur à nouveau, lui qui avait marqué un triplé lors du 12-0 en Coupe de France. Donc il repart sur de bonnes bases, Jonathan David, alors qu'il avait été quelque peu critiqué en début de saison.
Ouais, il y avait de quoi en tout cas. Ouais.
Bah oui, parce que seulement 5 buts en 17 matchs l'année dernière. On va rappeler qu'il en a marqué 24. Alors il faudra faire attention parce qu'on était sur 38 journées, maintenant on est sur 34.
Non, mais sans parler des buts,
il
était vraiment pas en confiance, même dans ses remises. D'ailleurs, après le fait qu'il soit allé un petit peu sur le banc, qu'il ait pris la suite, est plutôt bien. D'ailleurs, là, on les voit associés tous les deux, donc c'est aussi une solution pour Paulo Fonseca. Mais forcément, pour un avant-centre marqué, même en Coupe de France contre cette équipe martiniquaise, 3 buts, ça lui redonne aussi de la confiance.
Carrément. En tout cas, ils sont toujours à la recherche, hein, d'ailleurs, d'un attaquant et d'un joueur côté gauche, hein, à la place de Goodmanson, Cabella et Arasson, qui auront un petit peu de mal. Mais bon, la priorité, c'est d'avoir la doublure de Jonathan David, parce que Yazice, ça dépanne, mais c'est pas non plus son vrai poste. 1-0 pour Lille. Il reste 5 minutes avant le retour au vestiaire. Lille a fait peut-être le plus dur dans cette rencontre.
13h39 sur RMC, dans l'intégral sport. On va parler de rugby aussi, puisque la troisième journée de Coupe d'Europe de rugby, vous la suivez depuis vendredi sur RMC. 3 matchs concernant les clubs français aujourd'hui. À 16h15, il y aura La Rochelle face à Leicester. À 18h30, l'UBB qui reçoit Saracens. Et puis à 14h, un autre duel entre Français et Anglais. Le Racing qui se déplace chez les Anglais de Bath avec Winnie Claret qui va commenter la rencontre pour RMC. Elle est avec nous, Winnie. Salut.
Salut François, salut tout le monde.
Le Racing qui a très mal entamé cette Coupe d'Europe. 2 défaites au compteur, donc défaites interdites pour les Racingmen s'ils veulent croire un destin européen cette saison.
Oui, effectivement, puisqu'ils n'ont que 2 points au compteur grâce aux 2 bonus défensifs qu'ils sont allés chercher malgré leurs 2 défaites inaugurales face aux Harlequins à la maison, à l'Arena et en Ulster en Irlande pour le 2e match de Champions Cup. Donc effectivement, la victoire, elle est obligatoire. Attention, évidemment, parce que devant, mais ça a carburé très fort. On se souvient évidemment du match d'hier, hein, de Toulouse. Les Toulousains qui maintenant sont devant, premier de la poule B avec 15 points, les seuls pour l'instant à 15 points avec leur trois victoires retentissantes. Basse qui est juste derrière, en très grande forme. Basse qui a gagné ses deux premiers matchs de Champions Cup. D'abord à la maison ici au Recreation Ground face à l'Ulster, 37 à 14. Et puis à Cardiff, 32 à 39 pour Basse. Attention aussi justement de pas laisser trop de points à ces Anglais, parce que ça commence à très fort se resserrer. Pour l'instant, Racing est cinquième, avant-dernier de sa poule. Ça voudrait dire, s'il reste là, d'être reversé en huitième de finale de Challenge européen, la petite Coupe d'Europe. Mais ils peuvent encore comptablement aller chercher peut-être une qualification.
Et puis c'est aussi l'heure, Winnie, des retrouvailles entre le Racing et Finn Russell. Ça va être un beau moment. L'ouvreur qui a passé de belles années au Racing.
Forcément, hein, Finn Russell qui a marqué de belles saisons du Racing, qui a gardé des contacts, de l'aveu même de certains joueurs cette semaine du Racing, avec ses anciens coéquipiers, qui fait aussi tout le bonheur cette saison de Basse, avec à la charnière son demi-mêlée capitaine Ben Spencer. Ils forment un duo retentissant du côté de Basse, du sud-ouest de l'Angleterre. J'en parlais un peu avec des supporters ici au Recreation Ground, et ils me disaient qu'ils étaient ravis de l'avoir vu débarquer. Le seul truc peut-être, c'est ses coups de pied parfois un peu aléatoires. Bon, il a l'air toujours un peu dans la lune, mais c'est vrai qu'il fait quand même des merveilles, et notamment du côté de Basse. On va voir, pour l'instant on les a pas vus se serrer la main entre Racing Men et Anglais. Ils sont tous, les deux équipes sont sur le terrain en train de s'échauffer, mais évidemment on s'attend à quelques scènes de retrouvailles sur cette pelouse du Rec, comme on dit ici à Basse.
Et ben on va suivre ça avec toi, Winnie. 14h le coup d'envoi de ce match entre Basse et le Racing. À tout de suite, Winnie. Je vous rappelle aussi, tu nous l'as dit hier, les qualifications pour les huitièmes de finale du Stade Toulousain et du Loup. On espère une bonne nouvelle pour le club français, que l'on va suivre donc à partir de 14h. Il y a eu une très très belle situation pour les Lillois, Jean Baumel.
Ouais, Alexis Grova qui a fait un peu le ménage dans la surface de réparation. Alors je sais pas, Sam, mais est-ce que voilà, il a le ballon de à peu près à 35 mètres des buts, il va dans la surface, il insiste, mais il traverse quasiment toute la surface pour se retrouver de l'autre côté.
C'est la période du ski là, slalom. Bon, donc sur la dernière touche, il la pousse un peu trop loin, il aurait peut-être pu trouver un relais, moi je pense.
Voilà,
aussi,
c'est ça. Je voulais avoir ton avis. Est-ce qu'il fallait qu'il attente à fond ou il était un peu, il en fait un peu trop?
Ouais, bah il en fait toujours un peu trop, même si cette année je pense qu'il a passé quand même un cap. Mais là il a été un petit peu gourmand. Il a attendu le bon moment pour essayer de frapper. Et voilà, au dernier moment il s'est un petit peu trop écarté. Mais encore une fois, sur cette perte de balle là, les Lorientais maintenant aussi dans les duels, là c'était Bakayoko, là il se fait bouger.
Il a pris un jeu en plus.
Je pense qu'ils ont pris un coup derrière la tête aussi avec ce but encaissé il y a quelques secondes.
Ouais, à la 38e, un coup fond de Angel Gomez, la belle tête de Jonathan David qui trompe Mvogo avec un ballon qui va être sorti en corner, le sixième corner, hein, pour vous dire. Six corners en faveur du LOSC, aucun pour les Lorientais. Hein. Il n'y a pas eu de parade réalisée par Lucas Chevalier, qui continue son échauffement là dans son propre camp. C'est
plutôt inquiétant en revanche. Hein. Voici le corner, bien sûr, pour cette équipe de Lorient. Vraiment, qui est avant-dernier, on le rappelle.
L'opération maintien est inquiétante. Le corner, alors que M. Gayouz va encore aller voir Alexandro et qui cette fois, et Goodmanson, parce que ça se bouscule un peu dans la surface. Il y a ce corner qui va être tiré, petite main levée, le bras droit pour Zegrova, c'est parti sur le deuxième poteau. Il y a Jonathan David, mais surtout une tête, attention, la reprise de Thiago Santos, c'est contré, la remise peut-être d'Alexandro vers le Canadien buteur, pour l'instant unique buteur de cette rencontre. Et pour l'instant ils arrivent à s'en sortir défensivement, c'est compliqué, mais la touche sera même lilloise, décidément rien ne va. Il reste 30 secondes dans le temps réglementaire. Je ne sais pas si on aura du temps additionnel parce qu'il n'y a pas eu de temps mort dans ce match. Je ne suis pas sûr, peut-être une petite minute, mais je suis même pas sûr. Peut-être que M. Gayouz va siffler dans 20 secondes. Peut-être la dernière action de cette première période. 1-0 pour le LOSC, qu'on le rappelle. But de David, qui a le ballon d'ailleurs, qui remet vers Thiago Santos. Thiago Santos peut-être pour le débordement. Il préfère tenter une passe, mais ce ballon est contré. Nouvelle touche pour les joueurs lillois. Ouais, on aura du temps additionnel. Exactement une minute. Ouais, ça ne m'arrêtait pas. Plus, on vient d'y entrer. Le LOSC qui mène 1-0. Seb, c'est plutôt, et François, c'est plutôt logique. Il n'y a rien à dire sur ça.
Largement, même si ça a manqué un peu d'occasion nette, il y a eu des bonnes frappes, mais ils ont le monopole du ballon, ils ont été récompensés sur le but de Jonathan David. Mais moi je suis vraiment inquiet pour Lorient, ils proposent rien. Les attaquants, ils sont toujours dos au jeu. D'ailleurs, les attaquants qui font que défendre, hein, toute cette équipe.
Et puis, il y a beaucoup d'absents. Il y a 7 joueurs qui sont à la canne. Il y a Fèvre qui n'a pas été appelé.
Avec ces absents-là qui étaient là, ils ont 12 points en 17 matchs.
Ah ouais.
Là, c'est le 18e match. Donc, je suis vraiment, vraiment inquiet pour cette équipe.
Alors on va suivre la dernière action. Il reste 25 secondes dans le temps additionnel. Les Lillois qui ont toujours la balle avec le jeune Lenny Euro. On en reparlera en deuxième mi-temps, mais c'est certainement le joueur entre guillemets le plus bankable du côté Lillois. On en parle beaucoup. Alors on entend des sommes, c'est un peu n'importe quoi. J'ai entendu des sommes jusqu'à 80 millions d'euros. Bon,
c'est le foot actuel.
Oui, défenseur central, oui, c'est des sommes affolantes.
Virgil Van Dijk quand même.
Il a eu ses 18 ans ou pas?
Oui, il les a eu. Non, mais il lui reste un contrat. C'est ça aussi.
Il a pris un peu d'expérience.
Moi je veux bien 30-40, mais 80 tant mieux, hein, si Lille les prend tant mieux. Allez, c'est la mi-temps, 1-0 pour le LOSC qui mérite de mener grâce à Jonathan David. Ça va lui faire du bien à l'international canadien qui a mis cette jolie tête suite à un bon coup franc d'Angel Gomez à la 38e.
On te retrouve pour la deuxième période, Jibo, direction Wengen avec Clément Noël qui est sur la piste de Wengen. Morgan Mori pour le slalom.
Il est parti avec 13 centièmes d'avance sur le leader actuel, Loïc Meillard. Il est dans la partie centrale de cette Mannlichen, Clément Noël, la partie où les portes sont les plus serrées. Il n'a pas mis de coup de frein, c'est beau, c'est du beau ski qu'il est en train de dérouler. Clément Noël, revanchard après sa première manche ratée où il était en 12e position. Le passage de la double, nouvelle intermédiaire, il a engrandi son avance. Clément Noël, 53 centièmes, c'est vraiment du beau ski. On l'a pas vu en première manche, le beau ski du Vosgien. On le retrouve maintenant. Clément Noël qui passe la surmultipliée sur le mur final. Oh, attention, il va chercher loin sur cette porte, il a un peu dérapé et il s'est bien rétabli. Clément Noël, la dernière double, le dernier coup de bâton pour passer la ligne d'arrivée, il est devant et il met un gros coup à la concurrence. 54 centièmes d'avance sur le Suisse Loïc Meillard. Clément Noël qui peut peut-être rêver d'un podium, il y avait beaucoup d'écart avec les meilleurs de la première manche. Clément Noël premier, 54 centièmes d'avance sur Loïc Meillard, 76 sur l'Autrichien Michael Matt Steven Amier, le deuxième tricolore et quatrième à 1 seconde 04. Arrivent les 11 meilleurs skieurs de la première manche maintenant, François.
Merci Morgan, on va suivre ça bien sûr avec toi. Et puis on reparlera de ski et de cette folle semaine à Wengen qui a souri à Cyprien Sarrazin, invité d'ailleurs de Bartoli Time ce soir à partir de 19h sur RMC. La deuxième période de Lille-Lorient, Lille qui mène 1-0 face à Lorient, but de Jonathan David. Et puis à partir de 14h, le rugby avec Basse face au Racing 92. Tout ça sur RMC dans l'Intégral Sport. Vous restez avec nous bien évidemment, à tout de suite.
RMC Intégral Sport,
François Pinet.
h 58, vous écoutez RMC en direct toute la journée avec un super programme de sport avec Sébastien Piocel, toujours là. Dans un instant, la reprise à Lille de Lille-Lorient, 18e journée de Ligue 1. À la pause, Lille mène 1-0 face à Lorient, un but de Jonathan David. Dans un instant également, le coup d'envoi de Basse face au Racing 92. C'est de la Coupe d'Europe de rugby. Je vous donne également le programme du rugby aujourd'hui avec à 16h15 La Rochelle-Leicester et puis à 18h30 UBB Saracens. Le programme du foot avec à partir de 15h, Nantes-Clermont, Metz-Toulouse, Brest-Montpellier, puis 17h05, Le Havre-Lyon, 20h45, Lens-PSG, sans oublier la Coupe d'Afrique des Nations à suivre sur RMC. On ira en Côte d'Ivoire d'ailleurs dans un instant retrouver Gilbert Bribois à 15h, Nigeria, Guinée équatoriale à 18h, Égypte, Mozambique et à 21h, Ghana, Cap-Vert, la Super Coupe d'Espagne aussi au programme sur RMC avec Real Madrid, Barcelone. Voilà un programme de folie avec du ski aussi en ce moment à Wengen, le slalom, la deuxième manche, et on suit la performance du français Clément Noël avec Morgan Mori. Morgan.
Et si Clément Noël faisait une remontée de folie pour remporter son troisième slalom de Wengen, pourquoi pas 12e de la première manche, il est encore en tête alors qu'il ne reste plus que 5 concurrents, les Italiens Salavinazer, l'Autrichien Feller et les Norvégiens Christoffersen et Magras, mais ceux qui partent avec le plus d'avance sur le français. En tout cas, il y en a un qui est en train d'enterrer ses espoirs de dépasser Clément Noël, c'est l'Italien Tommaso Sala à l'avant-dernière intermédiaire. Il a 1 seconde 17 de retard sur le français Clément Noël. Il ne va donc en rester plus que 4 pour tenter de déloger le français. Le classement provisoire à 4 skieurs de la fin. Clément Noël est en tête avec 54 centièmes d'avance sur le Suisse Loïc Meillard, 62 sur un autre Suisse Marc Rocha. Le deuxième tricolore Steven Amier qui était parti d'Ossar, 46 et 8e provisoire à 1 seconde 04. Et le dernier tricolore Paco Raza, 19e provisoire. Dénouement dans un instant avec peut-être un podium, peut-être même une victoire pour Clément Noël sur ce slalom de Wengen.
Allez, on y croit, Noël après l'heure, ça serait magnifique pour Clément Noël. On va suivre ça bien sûr avec toi et on reparlera de tout ça avec notre consultant Sébastien Amier-Bastoun qui viendra nous parler de ce slalom de Wengen et puis plus globalement aussi de cette semaine folle à Wengen avec le français Cyprien Sarrazin qui s'est à nouveau illustré, qui a remporté le Super G. On en reparle dans un instant, on parlera de biathlon également avec Julien Richard qui suit les Français du côté de Ruhpolding. Le rugby, le coup d'envoi de Basse, Racing 92, match 3e journée de Coupe d'Europe, match à suivre en direct sur RMC avec Winnie Claret en Angleterre. Winnie.
Et ça y est, c'est Antoine Gibert, l'ouvreur du Racing 92, qui vient de donner le coup d'envoi. Et c'est encore le Racing qui est à la manœuvre avec Manspring là qui a joué à la main. On est dans le camp des Anglais. On est au niveau de la ligne de l'or, 40 mètres. Et attention, les avants maintenant qui vont pilonner cette défense anglaise. Basse qui joue en rouge aujourd'hui pour laisser les Racing men en bleu marine. Allez, ça y est, on joue maintenant encore avec les avants. Ici avec Olizy Wenceslas Auré. Attention, parce que ça pourrait être Henri Arundel, l'anglais, qui viendrait l'ailier le long de la ligne de touche, marquer ce premier essai de la rencontre pour le Racing. Est-ce qu'il va aller au bout? Il est à moins de 100 mètres maintenant. On est totalement en coin. Attention. Oui, l'essai, il a levé le bras. Est-ce qu'il va être validé? Moins d'une minute, messieurs.
Ah, c'est
moins
parti
d'une
très
minute.
Fort.
Ah, et attention, non, a priori, et pénalité plutôt pour Basse. C'est Henri Arundel, justement, bien pris par la défense, juste devant la ligne d'en but de Basse. Et il a gardé le ballon, et donc pénalité en faveur des Anglais qui peuvent se donner un peu d'air par un coup de pied de Finn Russell. Tiens, tiens, on en parlait tout à l'heure, François. Finn Russell, l'ouvreur écossais de Basse, parti du Racing en début de saison pour rejoindre le sud-ouest de l'Angleterre, qui vient donc de dégager pour la première touche de la partie. Deuxième minute de jeu, toujours 0-0, mais attention, les Racing Men qui montrent beaucoup d'envie en ce début de partie.
Et tu nous le disais, effectivement, victoire quasi impérative pour le Racing qui a perdu ses deux premiers rendez-vous européens. Le Racing leader du top 14 met un autre visage en Coupe d'Europe. Et pour l'instant, même s'ils n'ont pas marqué de points, ils ont montré qu'ils avaient envie face à Basse. On va suivre ça, bien sûr, avec toi de très très près. On va retourner dans un instant à Lille, où pour l'instant, Lille mène 1-0 face à Lorient. La reprise de la deuxième période avec Jean Baumel.
Oui, avec un instant les Lillois qui ont repris le ballon, alors qu'il y a eu un changement du côté l'orienté, la sortie de Tosin et l'entrée de Croupy. Pas de changement côté Lillois avec ce score de 1-0 sur but de Jonathan David pour les nordistes.
Jibo, c'était bon là le petit la petite collation là.
T'es remonté par les marches, non?
Exactement. Voilà. Pour tout vous dire, en fait, on est en train de discuter avec pas mal de confrères du match.
On va laisser reprendre ton
souffle. Et on s'est dit, ah, c'est reparti, ça va pas tarder à repartir, faut pas qu'on traîne.
Voilà les coulisses. C'est plus avec Jibo.
Voilà, puis après un peu de galette aussi.
Oui, non, repose-toi. Pour l'instant, c'est reparti doucement. 1-0 pour Lille face à Lorient. On va avoir le temps, bien sûr, de reparler de tout ça.
Non, mais là, tout va bien, ça va.
Ça va,
ouais,
parti
ton nickel, nickel,
juste
nickel.
Sur Lorient, quand même, un mot avec toi, Sébastien. Cette équipe de Lorient et les mots aussi de Régis Lebris, qui est toujours en place, hein, l'entraîneur de Lorient, alors qu'ils ont perdu notamment contre Sochaux là, en Coupe de France pour débuter l'année, qu'ils restent sur une série vraiment très négative et qui explique devant la presse qu'il doit se séparer d'au moins 7 joueurs.
Oui, c'est vrai qu'en termes de communication particulière, il y a certainement mieux à faire, même si c'est certainement vrai aussi, hein, que ouais, d'avoir un groupe un peu plus restreint pour essayer d'atteindre les objectifs. Mais c'est vrai que c'est un entraîneur qui a eu beaucoup plus de pouvoir à l'intersaison, et que derrière, ça, en termes de rendement, on est très très loin des objectifs. Et puis il y a l'arrivée quand même de Yannick Cahuzac comme adjoint qui peut lui faire du bien, mais est-ce que c'est pas peut-être pour prendre la suite aussi derrière, on sait jamais.
On va suivre ça en tout cas, Lille face à Lorient et les Lillois qui mènent donc 1-0. On va parler de ski tout de suite sur RMC à 14h04.
RMC, la page sport d'hiver.
Dans un instant, on va parler de biathlon également avec Julien Richard, mais avec Sébastien Amier, on va parler de Wengen. Salut Sébastien.
Salut, bonjour à tous.
Tu suis en ce moment, comme nous et comme Morgane Maury, le slalom avec pourquoi pas une bonne nouvelle pour Clément Noël. Où on en est, Morgane?
La fougue par la moustache la plus célèbre de l'équipe autrichienne, Manuel Feller, le meilleur slalomeur actuellement sur la planète. Feller, qui a déjà gagné deux fois cette saison, il a pris la première place à Clément Noël pour 44 centièmes. Le Français est sur la deuxième marche du podium devant le Suisse Loïc Meillard. Steven Amier est neuvième et va au mieux égaler son meilleur résultat en Coupe du Monde. Il reste deux hommes pour essayer de sortir Noël du podium. Les deux Norvégiens, Henrik Kristoffersen et Atleli Magwafs. Kristoffersen vient de s'élancer sur la Mannlichen, la piste de Wengen.
Tu nous tiens au courant, bien sûr, mais d'abord un premier mot avec toi, Bastoun, sur Clément Noël, 12e à l'issue de la première manche, qui a fait une deuxième manche très jolie.
Ouais, bah Clément, voilà, il fait son ski aujourd'hui. Hein. C'est vrai qu'il avait le week-end dernier connu des mésaventures alors qu'il était parti très vite. Et en tout cas, on le sait, voilà, que quand il sort de manche propre, il est au contact. Il a su hausser le ton sur cette deuxième manche. toujours à Wengen, hein, sur une piste qui est très très difficile, avec beaucoup de mouvements de terrain, de la pente, des changements de rythme. Voilà, c'est de bon augure, ça va lui faire du bien, ça reconsolide aussi un petit peu cette confiance. Avec ce mois de janvier qui est important, hein, puisqu'il reste week-end prochain Kitzbühel, Lanming, Chamonix, trois slaloms qui vont s'enchaîner, trois slaloms où il a des souvenirs mémorables. Donc même si c'est pas podium aujourd'hui, c'est déjà dans le ton et ça montre que le ski il est là.
Avec une bonne performance aussi d'un certain Steven Amier, Bastoun qui se débrouille bien là.
Écoute, on prend, hein, comme on dit, voilà, l'oiseau fait son nid petit à petit. Tu pars 46 encore aujourd'hui, c'est pas facile. Il rentre, il fait bien le boulot à deuxième manche, même s'il y a des petites erreurs. Voilà, ça consolide aussi cette confiance qui est dure à acquérir en slalom. Et puis, c'est grappillé, ces fameux dossards. Donc, c'était la dernière fois qu'il partait 46 aujourd'hui. À partir de Kitzbühel, il aura le dossard 31 sur le dos. Donc, ça va changer aussi pas mal de choses pour la première manche. Jouer peut-être encore plus au contact devant. Et puis, montrer ce qu'il sait vraiment faire. Parce que sa valeur aujourd'hui en ski, elle est au-dessus de ça. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est tout l'entourage et les entraîneurs. Mais après, il y a la course, il y a le moment de où tu mets le dossard sur le dos qui change pas mal de choses. En tout cas, c'est top pour lui. Ça fait du bien au groupe aussi. Trois Français qualifiés avec Paco Rassa aujourd'hui, voilà, qui avait fait l'impasse pour des problèmes de dos à Wengen et qui vient aujourd'hui au pire 23e. Donc voilà, c'est une première qualif pour lui cette année. C'est ses premiers points en Coupe du Monde, donc de bel augure pour la suite du mois de janvier.
Avec Bastoun, bien sûr, Sébastien Amier, notre consultant, pour revenir sur ce qui s'est passé à Wengen. Morgan, bien sûr, dès que tu as le résultat et potentiellement le podium, pourquoi pas pour Clément Noël, tu nous fais signe, hein, évidemment. Tu nous arrêtes.
Dans une poignée de secondes, François, c'est le Norvégien Atleli Magrave qui est en train d'en terminer. Feller premier devant Christoffersen. Noël est troisième, mais ça tient à un cheveu. Ça dépend d'Atleli Magrave. Il était en tête aux intermédiaires et Clément Noël repoussé en quatrième position. Victoire de Manuel Feller, sa troisième de l'hiver en slalom devant les Norvégiens Magwaf et Christoffersen. Clément Noël quatrième, Steven Amier onzième, il égale son résultat d'Adel Boden, et Paco Rassa 22e dans ce slalom de Wengen. Repos Kitzbühel la semaine prochaine pour les skieurs français.
Quatrième place donc pour Clément Noël, à retenir bien sûr. Merci beaucoup Morgan. Wengen, Bastoun qui a été aussi le théâtre cette semaine d'un duel magnifique entre Marco Odermatt, le Suisse, et le Français Cyprien Sarrazin. Odermatt qui a remporté les deux descentes devant le Français, Sarrazin qui a remporté le Super G devant Odermatt. Cyprien Sarrazin, tu t'en souviens Bastoun, il était en direct avec nous après sa première victoire en descente à Bormio, c'était fin décembre. On lui disait à l'époque qu'il serait attendu. Désormais, cette semaine, il prouve que ce nouveau statut, ça lui va comme un gant, en fait. Hein.
Ah ouais, et puis de quelle manière il supporte ce statut de favori et de leader. C'est pareil, hein, quand tu gagnes une fois, c'est une chose. Il y a toutes les sollicitations qui arrivent derrière. Et puis, il a su vraiment se reposer, mûrir encore de cette victoire pour arriver à Wengen avec un gros week-end où il a su résister à cette pression qui enfonce sa force aussi aujourd'hui. Il gagne souvent les entraînements, chose qu'il a faite encore à Wengen. Quand tu gagnes les entraînements, c'est jamais facile non plus de faire le vide complet pour aborder la course de la meilleure des façons. Et puis lui, il fait abstraction de ça. Il profite de cette énergie positive, de son physique, de son toucher de neige, de cette grâce sur les skis pour venir titiller le petit Suisse Marco Odermatt, avec qui il se tire une belle bourre et ça fait plaisir. Mais comme tu le dis, Wengen nous a donné beaucoup de bonheur cette semaine, mais des pleurs aussi, hein, oui, avec la blessure d'Alexis, à qui on
salue. Bien sûr, une pensée pour Alexis Paturo.
Alexis, il a tout connu cette semaine, la naissance de sa fille et puis la blessure au genou qu'il n'avait jamais connue en 15 ans de carrière quasiment. Donc il a rejoint malheureusement la liste des blessés, des skieurs avec un croisé pété. Hier, on a encore perdu Alexander Kildeomot, malheureusement, qui s'est blessé aussi. On voit que ces descentes sont exigeantes. Hein. Il y a la transition de Noël, bien sûr, mais les descentes de Bormio avaient déjà dures. Là, il y a quasiment 5 jours de plein régime, puisque les entraînements, quasiment, tu es obligé de les faire à bloc. Tu ne peux pas les skier juste en descendant. Et puis, les jours de course, il faut hausser le curseur. Et on voit que même les plus gros, même ceux qui ont les plus grosses cuisses, en haussant le curseur, ils arrivent à se faire mal. Donc, malheureusement, c'est la dure loi du sport, mais on retiendra cette progression fantastique de Cyprien Sarrazin. Qui va jouer peut-être la Coupe du Monde de descente en fin de saison, peut-être celle du géant aussi, et puis qui sera peut-être pas loin au général. Donc À lui de nous tenir en haleine avec tout ça. Et puis, ça fait plaisir de voir justement les Français au plus haut niveau dans toutes les disciplines. Pourvu que ça dure, le mois de janvier commence bien, 2024 commence bien, et bravo.
Et on suivra avec toi, bien sûr, la mythique descente de Kitzbühel au programme la semaine prochaine. Cyprien Sarrazin, invité de Bartoli Time, d'ailleurs, dès 19h, 20h, vous le savez, tous les dimanches sur RMC Bartoli Time, avec Marion Bartoli, Jean-Christophe Drouet, Cyprien Sarrazin, l'homme du week-end, l'homme de Wengen, qui sera sur RMC à partir de 19h. Merci beaucoup, Bastoun, à très bientôt.
Salut à tous, bon après-midi.
À bientôt sur RMC. À bientôt. On va parler de biathlon également, alors que je vous le dis que pour l'instant, il y a toujours un but à zéro pour Lille face à Lorient en Ligue 1, 18e journée. On retourne à Lille dans un instant. 0-0 entre Basse et le Racing. Ça, c'est de la Coupe d'Europe de rugby. On retournera voir Winnie Claret dans un instant également. Mais le biathlon, cette semaine, c'était à Ruhpolding en Allemagne. C'est à Ruhpolding en Allemagne que ça se passe, avec Julien Richard aux commentaires. Salut Julien.
Salut François. Salut à toutes et à tous.
Alors, on va parler des hommes qui vont commencer dans un instant, évidemment, à poursuivre. Mais on va d'abord débriefer cette poursuite dames. On sait que les femmes sont en haut de l'affiche, les Françaises, depuis le début de la saison de biathlon. Comment ça s'est passé, cette poursuite, pour les Françaises aujourd'hui?
Alors, Ruhpolding, ça leur réussit un peu moins que les semaines précédentes. Elles avaient enchaîné 7 victoires consécutives, que ce soit en individuel ou en relais, jusqu'à son premier relais de Ruhpolding, mais en individuel. Bien, ça donne 2 quatrièmes places pour Lou Jean Monod, 4e sur le sprint et 4e sur la poursuite. Mais l'info, finalement, de cette poursuite du jour à Ruhpolding, eh bien, c'est que Justine Brezaz-Boucher, qui était porteuse du dossard jaune, c'est jaune, oui, de leader du classement général de la Coupe du Monde, eh bien, elle a perdu ce dossard aujourd'hui. Justine Brezaz-Boucher qui termine 7e. Alors, elle s'est vraiment bien battue parce qu'elle fait 4 fautes derrière la carabine. Elle était loin. Elle a grappillé des places précieuses, mais elle vient échouer donc à 9 points de la Norvégienne Ingrid Tendrevold, qui s'empare du dossard jaune de classement général de la Coupe du Monde. Elle a terminé 2e. Tendrevold, c'est une Italienne qui s'est imposée aujourd'hui, Lisa Vitozzi.
Donc c'est ça qu'il faut retenir, évidemment. Elle perd son dossard jaune. On devient exigeant quand même avec ces demoiselles, hein. C'est fou, hein.
Oui, d'autant qu'on en a 3 dans les 8 premières du classement général de la Coupe du Monde, puisqu'on a quand même Julia Simon qui est encore un peu loin aujourd'hui, 13e, qui a commis beaucoup trop d'erreurs, 5e, mais Lou Jean Monod qui revient bien également. On a signalé aussi Jeanne Richard qui prenait son 4e départ seulement en Coupe du Monde, qui termine 20e. C'est une super place. Elle s'est battue, elle était dans le coup jusqu'au dernier tir où elle commet 2 erreurs, mais vraiment c'est assez impressionnant. Donc les Françaises sont en forme, ça c'est...
Les Françaises en forme, on le sait. Pour les garçons, c'est plus compliqué, même si on va suivre bien sûr dans une demi-heure maintenant la poursuite, messieurs, avec pourquoi pas un podium, puisque Emilien Jacquelin a terminé 4e du sprint, hein.
Il serait temps, François.
On va croiser les doigts, c'est
la 12e classe, c'est la 12e course individuelle de la saison aujourd'hui. Pour l'instant, il n'y a pas eu de podium français individuel chez les garçons. C'est assez inédit.
Il y avait un certain Martin F.
Entre autres, mais ils montaient tous sur le podium aussi. On avait des triplés, des quadruplés.
C'est vrai.
C'est un peu le feu d'artifice. Là, c'est compliqué. C'est vraiment pas passé loin sur le sprint pour Emilien Jacquelin, qui a ses cafés popcorn. Il a explosé sur le dernier tour. Il était en lice pour la victoire finale, mais il a explosé physiquement sur le dernier tour. Il échoue à 8 dixièmes seulement de la 3e place du sprint occupé par Targibus, ce qui veut dire qu'il va s'élancer en 4e position. Et ça, c'est une place assez idéale pour lui. On sait qu'il est double champion du monde de cette spécialité de la poursuite. Il adore ça. Et il reprend petit à petit de la confiance. On sent que c'est compliqué, hein, chez les garçons, cette histoire de confiance, que les résultats ne suivent pas. Et c'est une sorte de mécanique qui se met en marche et qui est vraiment pas positive. Et là, on a envie de se dire que ça commence à aller un tout petit peu mieux, sauf pour Quentin Fillon-Maillet, qui lui était très loin du sprint, 33e, et qui a annoncé ce matin sur ses réseaux sociaux qu'il ne prendrait pas le départ de la poursuite. En gros, il explique qu'il va rentrer un peu se reposer et qu'il sera là sur la dernière étape la semaine prochaine à Antols Anterselva en Italie, dernière étape avant les championnats du monde.
Merci beaucoup Julien, on te retrouve tout à l'heure, donc 14h45 pour cette poursuite. Messieurs, à tout à l'heure Julien.
À tout à l'heure.
Votre émission sur RMC avec Nikon Veroptique. Ne manquez aucun détail de la compétition de biathlon. Ceci est un dispositif médical.
14h14 sur RMC, l'intégral sport qui se poursuit bien sûr avec les premiers points marqués par le Racing. Basse face au Racing, c'est de la Coupe d'Europe de rugby, Winnie Claret.
Et oui, 3-0 pour le Racing à Bas sur la pelouse de la Recreation Ground. 3-0 grâce à une pénalité transformée par Nolan Le Garec à la 8e minute de jeu. Et surtout, les Anglais qui jouent pour l'instant à 14 contre 15 après le plaquage dangereux de leur 3e ligne centre, Alfie Barberi, sur Max Spring, l'arrière du Racing à la 5e minute de jeu. Il est sorti donc pour 10 minutes et laisse ses coéquipiers à 14 contre 15. Mais attention, parce que pour l'instant, c'est une mêlée très intéressante qu'ont à négocier les Anglais. Et maintenant, une pénalité dans le camp du Racing, dans les 22 mètres des Franciliens. Attention à ce que Basse n'enclenche pas trop vite la machine, parce qu'on sait à quel point ces Anglais sont dangereux en Coupe d'Europe cette saison. 2 victoires significatives pour les deux premières journées. À Basse, 37 à 14 contre l'Ulster, et à Cardiff, 32 à 39 pour Basse. Et voilà donc cette troisième journée de Champions Cup. De l'autre côté, le Racing qui n'a pas le choix. Il faut gagner s'ils veulent encore exister dans cette Champions Cup. Pour l'instant, ils sont avant-derniers de leur groupe, donc pas qualifiés pour les phases finales de Champions Cup. Il pourrait être au mieux, s'il reste cinquième, reversé en huitième de finale de Challenge européen, la petite Coupe d'Europe. Mais voilà, pour l'instant, c'est le Racing qui a ouvert les scores. 3-0 à la 12e minute de jeu ici à Basse.
Très bien, on te retrouve bien sûr pour la suite de ce combat entre Basse et le Racing 92. Et puis Lille, Lorient, le temps, le score. Gibo, vous n'avez rien raté, bien
coup,
évidemment.
Non, on réussit du côté lillois en deuxième mi-temps. Voilà, ça se résume à ça. 1-0 pour le LOSC, la 59e. Le buteur, c'est Jonathan David à la 37e.
Sébastien Piocel, bien sûr, l'intégral sport qui se poursuit dans un instant pour ce Lille-Lorient. On va parler aussi de la Coupe d'Afrique des Nations, puisqu'à 15h, il y a le deuxième match de cette Coupe d'Afrique des Nations entre le Nigeria et la Guinée équatoriale. Restez avec nous sur RMC, à tout de suite.
RMC Intégral Sport, François Pinet.
14h20, on va tout de suite à Lille, puisqu'il y a un beau coup franc pour les Lillois. Gibo,
1-0 toujours pour le LOSC, c'est Angel Gomez directement dans le mur, la frappe de Zegrova, ça rentre, mais intervention de l'arbitre juste avant. Il y a dû avoir peut-être un Lillois qui a dû toucher.
Oula,
ce ballon.
Qu'est-ce qui se passe,
on comprend pas.
Les
trop.
Sont
ils sont furax, notamment le capitaine Benjamin André. Monsieur Gaillou, c'est sûr de lui. Il
J'ai
regarde
l'impression
son...
que les Lillois demandent une main, non?
Ouais, c'est ce que je crois. C'est ce que je crois. Mais
c'est surtout, qu'est-ce qui signale en fait?
Il a regardé son juge de touche.
Reparti.
Le jeu est vite reparti. Les Lorientais, d'ailleurs, ont été intelligents sur ce coup-là, parce qu'ils ont enchaîné directement avec cette récupération de balle. Ils n'ont pas attendu que l'arbitre discute trop longtemps avec les Lillois. 3 coups francs bien placés à l'entrée de la surface de réparation en seconde période. Les 3 très mal tirés, c'est ouais, hein, globalement
mal,
franchement
très mal négocié, ça a du mal à lever le ballon. Ce qu'on disait avec François, bon, Lille à la main, il n'y a pas de souci, mais c'est le genre de match où les Lorientais, voilà, ils sont un tout petit peu plus haut, ils n'ont pas changé de système, mais voilà, il faudrait marquer le deuxième but, sinon ils vont
pas à l'abri.
Croupis, c'est pas mal, hein.
Ça amène un peu plus de profondeur, ça tient un peu plus le ballon que Tosin. Après, je pensais, peut-être qu'il le fera dans les dernières 20 minutes, que le Brice allait changer de système, peut-être passer à 4 pour avoir un joueur supplémentaire dans le cœur du jeu, justement pour aller gagner des duels et se gagner quelques mètres. Pour l'instant, il l'a pas fait. Il pense qu'il peut peut-être rester 1-0 et jouer le coup d'une contre-attaque.
Mais ils subissent beaucoup quand même. Et les relances d'Emvogo tout à l'heure aussi, on a vu encore directement sur Zegrova.
Non, mais à la main ou au pied.
C'est trop, hein. C'est abusé quand même.
Autant il est bon sur sa ligne, c'est un bon gardien. C'est vrai que dans les relances, il met son équipe en difficulté.
Ouais. 1-0 pour Lille, en tout cas, face à Lorient. On y retourne bien sûr dans un instant. 18e journée de Ligue 1 qui se poursuit à 15h. Nantes, Clermont, Metz, Toulouse, Brest, Montpellier. Dans un instant d'ailleurs, on sera à Brest avec Xavier Grimaud. 17h05, Le Havre, Lyon et 20h45. Lens PSG. Juste avant de parler de ce Brest-Montpellier, un détour par le rugby, puisque les Anglais ont égalisé face au Racing, Winnie Claret.
Et oui, à la 13e minute de jeu, une pénalité juste après qu'on se soit eu de Ben Spencer, transformé par le demi-mêlée, capitaine de cette équipe de Basse. 3 partout donc à la 17e minute de jeu. Les Racingmen qui ont clairement des volontés offensives. Ils sont encore dans le camp de Basse. Cette fois, Antoine Gibert qui tape une pénale touche pour aller se rapprocher de la ligne d'en-but de Basse et peut-être ouvrir le score, ou en tout cas plutôt marquer ce premier essai de la partie. Les Racingmen qui, pour l'instant, font trop de fautes, que ce soit des en avant ou des mêlées tournées dans les 22 mètres de Basse, et qui pour l'instant donc ont des occasions mais les gâchent eux-mêmes et ne parviennent pas à marquer ce premier essai. Mais attention, parce que la Camonau qui a bien intercepté ce lancer de Camicha, un maul qui s'est formé sur la ligne des 5 mètres. On est tout à droite de l'attaque du Racing. Attention, ça s'échappe avec Camicha. Est-ce qu'il va pouvoir passer? Il est à 5 mètres, il est à 2 mètres 50 maintenant de la ligne d'en-but de Basse. Allez, ça écarte avec Gaël Ficou, le capitaine. Siakolisi pour son premier essai, peut-être, non, pas encore. Est-ce que ça va aller? On se lève. Est-ce que ça va aller à l'essai? Pour l'instant, il y a un énorme tas qui s'est formé sur le tout rétréci en but de base. Pour l'instant, la défense est bien alignée, pas encore aplatie derrière la ligne d'en but, mais ça pousse très fort du côté du Racing. On est passé tout à gauche de l'attaque du Racing avec les avants qui essayent de pilonner. Oui, le premier essai de la partie. Non, c'est une pénalité qui a été, encore une fois, je l'ai vu lever le bras et encore une fois, j'ai cru que c'était un essai. Ben non, c'est une pénalité qui est sifflée parce qu'on a gardé le ballon au sol.
Ah ouais,
c'est
ce que j'étais, ça fait beaucoup d'occasions.
Ce que je t'expliquais, François, il y a énormément d'occasions depuis le début de la partie. On est à la 19e minute de jeu. Seulement deux pénalités de part et d'autre. Trois partout donc. Mais aucun essai parce que le Racing, malgré ses occasions, fait trop d'erreurs. Garde le ballon au sol, fait des en avant, tourne des mêlées dans les 22 mètres adverses. Et pour l'instant donc, malgré cette grosse efficacité du Racing qui possède et qui occupe le camp adverse, et ben on en est encore sur un score vierge d'essai, mais donc toujours 3 partout entre Basse et le Racing à la 19e minute de jeu.
On revient te voir bien sûr Winnie pour ce match très animé entre Basse et le Racing. On rappelle qu'à 16h15 La Rochelle, Leicester, et puis à 18h30 UBB Saracens pour les clubs français dans cette troisième journée de Coupe d'Europe. Avant de retrouver Gibo à Lille, où Lille mène toujours face à Lorient 1-0, on va faire un détour par Brest et la Bretagne pour retrouver Xavier Grimaud. Salut Xavier.
Salut François, salut Seb, bienvenue dans le Finistère.
Salut Xavier.
Légère brume, on voit quand même la mer, mais il y a une légère brume, mais il fait plutôt bon. Il fait plutôt bon et beau pour cette rencontre.
C'est toujours un point météo quand on arrive à Brest.
Il est obligé,
un point météo,
Xavier, il est obligé de faire un point météo pour dire non, il ne pleut pas toujours.
Bah, non, mais je rappelle toujours qu'on voit la mer, parce que c'est l'un des rares stades où on voit la mer depuis la tribune de presse. Avec
Ajaccio aussi.
Avec Ajaccio, notamment, exactement. Donc je le rappelle toujours parce que la vue, elle est belle.
Alors
donc,
juste avant de parler de ce Brest-Montpellier, un détour par l'Angleterre, Basse Racing Winnie, parce qu'il y a eu un essai.
On s'est fait avoir par les acclamations du public anglais. Non, de l'autre bout du stade, effectivement, on ne le voyait pas, mais ce n'est pas une pénalité qui a été sifflée, c'est bien Max Pring qui a pu aplatir cet essai dans l'en-but anglais. Il y a donc bien 10-3 pour le Racing et c'est transformé par le demi-mêlé Nolan Le Garec. Et donc à la 20e minute, c'est bien le Racing qui pour l'instant prend les commandes de ce match et c'est logique, vu les occasions que se créent les Racing Men, les Franciliens depuis le début de cette partie. 10-3 donc pour le Racing sur la pelouse de Basse à la 20e minute de jeu.
Eh bien, elle est bien partie ce match pour les Parisiens. Xavier Grimaud en direct de Brest pour ce Brest-Montpellier à partir de 15h à suivre sur RMC. On t'avait laissé en fin d'année dernière, je me souviens, sur un festival brestois 4-0 face à Lorient. Confirmation d'une première partie de saison exceptionnelle pour le Stade Brestois qui est quatrième de Ligue 1 actuellement, même si là il y a Lille qui peut les rejoindre. Le but maintenant, c'est de maintenir cette dynamique positive en 2024, très clairement.
Oui, évidemment. Alors, il n'y aura pas de triplé de Camori Doumbia, puisqu'il est à la Cannes, le Malien. Mais oui, effectivement, les Brestois ont envie d'entretenir le rêve. Pour l'instant, on ne parle pas d'Europe encore, ou alors en plaisantant plutôt dans le vestiaire. Mais force est de constater qu'ils sont sur une totale confiance. Ils se sont qualifiés également en Coupe de France face à Angers pour le premier match de l'année. Ce n'était pas forcément simple, parce qu'Angers est leader de Ligue 2 et joue plutôt bien. Donc, est-ce qu'ils vont enchaîner face à Montpellier? On a hâte de voir ça avec une équipe qui tourne pas trop, je veux dire au niveau des choix d'Éric Roy, mais qui tourne parfaitement bien au niveau de la dynamique et du jeu.
Bon, un match par semaine.
Un match par semaine, un groupe qui est vraiment excellente ambiance, qui peut-être rêver haut. Première partie de saison historique, on a envie d'aller chercher peut-être une saison historique pour le club. Le meilleur classement de l'histoire de Brest, c'est époque Brest-Armorique en 86, une 8e place. Là maintenant, on a envie de regarder peut-être le nombre de points d'écart avec le 7e pour pourquoi pas rêver d'Europe. Et pour l'instant, les Brestois, en cas de victoire face à Montpellier, ils auraient 6 points d'avance sur le 7e. Ce serait pas mal. Pour ça, il va falloir battre Montpellier. Potentiellement, donc Brest sur le podium, 3e, s'ils battent les Montpellier. Mais ce qui est incroyable, c'est que Brest est, on peut dire, favori assez largement face à Montpellier, alors que normalement, ce serait plutôt l'inverse, puisque Brest est censé jouer le maintien.
C'est plus trop une surprise.
Dans une année normale,
C'est plus trop une surprise, même si on sait qu'avec le mercato, il y a quand même quelques joueurs qui sont sollicités, donc ça pourrait, pourquoi pas, dérégler.
Ça bougera
un
pas beaucoup.
Ouais, tu penses que ça bougera pas?
Non, a priori, alors pour l'Esmelou ne partira pas. Il y a une approche de Rennes, à moins que Rennes vraiment gonfle énormément son offre, et ce serait sans doute une grosse enveloppe pour l'Esmelou, même si c'est un très bon joueur. Le seul qui est potentiellement partant, c'est peut-être Brassier, mais c'est pareil, le club a envie de le garder et éventuellement de le vendre avec un prêt jusqu'à la fin de la saison. Et Brassier a pas forcément envie de de quitter Brest à ce moment-là parce que l'aventure est belle, il a envie de la vivre jusqu'au bout, c'est ce qu'a laissé sous-entendre en tout cas Eric Roy. Donc ça devrait pas bouger beaucoup, ça peut être une année historique.
C'est surtout le souhait d'Eric ça.
Oui, non mais a priori le joueur a pas donné des envies de départ
immédiat. Quand on vit une telle saison, c'est vrai qu'en général on a envie d'aller au bout.
Ah oui oui, ça serait la belle aventure effectivement pour les Brestois. Il n'y aura pas de supporters Montpellier, hein, c'est important de le préciser aussi.
Non, il y a eu des gros on a frôlé le drame au match aller. Le club brestois trouve d'ailleurs qu'on n'en a pas beaucoup parlé. On rappelle qu'il y avait eu des pierres, hein, des pavés énormes lancés depuis un pont sur l'autoroute à pleine vitesse sur le bus des supporters qui rentraient. Si le pavé touchait la tête du chauffeur, ça aurait été le drame. Et heureusement, ça a été évité. Donc forcément, là, les antécédents ont justifié plus que jamais l'arrêté préfectoral pour qu'il n'y ait pas de supporters montpelliérains. Et puis juste pour rappeler, alors les Brestois n'espèrent pas que ça va se reproduire, mais l'an dernier, vous vous souvenez du Brest-Montpellier l'an dernier, 7-0 pour Montpellier.
Ah oui.
7-0 pour Montpellier. C'était un match hallucinant, un match incroyable, plus lourde défaite de l'histoire du club brestois. Et l'entraîneur qui était sur le banc brestois, c'était Michel Darzacarian. Alors je pense qu'il aimerait bien ne pas prendre la même, mais mettre la même cette fois au brestois. On sait qu'en plus,
je crois qu'un 1-0, ça lui conviendrait aussi.
Oui, non, mais non.
Il lui manque quand même pas mal de joueurs.
Oui, on imagine mal le Montpellier actuel mettre 7-0 à Brest. Je suis d'accord.
Merci beaucoup, Xavier. À tout à l'heure pour ce match à partir de 15h, donc dans un tout petit peu plus de 30 minutes en direct sur RMC. Merci Xavier, on va parier tout de suite sur ce match.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Johan Grenov de la rédaction des paris RMC. Salut Johan.
Salut François, salut Seb, salut.
Quels sont les cotes de ce Brest-Montpellier? Et Brest favori.
On en parlait, Brest est largement favori de cette rencontre à domicile. 1,78 la victoire des Brestois, 3,60 le match nul, 4,80 la victoire de Montpellier. Évidemment, la dynamique, elle est pour les Brestois qui ont un gros coup à jouer pour cette rencontre en cas de victoire. La victoire, hein, 78, ça peut se prendre. On peut se couvrir avec le 1N et les deux équipes marquent. Ça, c'est 2,25 et j'aime beaucoup, moi, aller sur les buteurs. Et on va être d'accord, Seb, c'est le but de Romain Del Castillo, 3,80. Je pense qu'il faut se jeter dessus.
Ouais, complètement. Moi, je vois bien Brest l'emporter. Donc, ils sont sur une superbe dynamique. Les Montpellierains, en plus, ils ont quand même pas mal d'absents dû à la Cannes ou au championnat d'Asie, des nations. Et du coup, ouais, je vois bien Brest l'emporter et je vois bien Del Castillo marquer.
Et 3,80 le but de Romain Del Castillo avec la victoire de Brest, c'est 4,40.
Ouais, le nul, il est pas mal payé quand même, hein, il me fait de l'œil, mais bon.
3,60.
Je vais suivre notre ami Seb, il a toujours des bonnes inspirations.
Suis les experts.
Merci Johan, d'autres paris à retrouver sur rmcsport.fr.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Toujours à 0 pour Lille face à Lorient à 14h30. On y retourne dans un instant. On vous rappelle aussi à 15h Nantes, Clermont et Brest, Montpellier et Metz, Toulouse. Hein. Bien sûr, ces trois rencontres à suivre en direct sur RMC. Mais tout de suite, à 14h30 sur RMC, c'est l'heure du défi hippique avec Frédéric Kita à Vincennes. Bonjour Frédéric.
Salut François, salut à tous. Effectivement, c'est l'heure du défi hippique avec aujourd'hui un très beau quintet plus. Il s'agit du Prix de Belgique qui est la 6e course qualificative au Prix d'Amérique. C'est également la dernière course qualificative. On rappelle le principe, les 3 premiers de cette épreuve se qualifient pour le Prix d'Amérique qui est prévu le dimanche 28 janvier prochain. Et pour le défi hippique du jour, on accueille un nouveau parieur au 32-16. Il s'agit de Cyril. Salut Cyril.
Bonjour Frédéric.
Comment vas-tu?
Très bien, merci, et vous?
Très bien également. Je rappelle qu'ils sont quand même 18 trotteurs au départ aujourd'hui. Ils sont âgés de 6 à 11 ans et la distance à parcourir, c'est 2850 mètres. Quel est ton favori, Cyril?
Je vais prendre Isoar Vedake. Il a fini la botte de Hideo Tillard au prix de Nordbonne. Donc, bon, je pense que c'est une bonne chance.
C'est noté. Donc, tu as choisi le numéro 10, Isoar Vedake. On va lui opposer du côté de la Dream Team des courses RMC le numéro 2, Ideal Lignery, qui a été disqualifié dernièrement, mais auparavant il avait aligné des bonnes performances. Il dépend de l'entraînement en forme de Fabrice Soulois. Il est capable ici de terminer sur le podium et donc de décrocher son ticket pour le Prix d'Amérique. Je rappelle la règle, Cyril, si ton numéro 10, Isoar Vedake, termine devant le numéro 2, la Lignerie, tu seras de nouveau avec nous demain. Je te souhaite bonne chance et un très bon quintet.
Merci.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci beaucoup Fred Kita. matin. Le temps, le score entre Lille et Lorient, 18e journée de Ligue 1, Gibo.
La 75e, 1-0 pour le LOSC, but de Jonathan David, et je peux vous dire que c'est pas cher payé, et Lorient peut espérer, pourquoi pas, revenir dans cette partie.
Et on suit également Basse Racing, le temps, le score, Winnie Claret pour la Coupe d'Europe de rugby.
28e minute de jeu, 10-3 pour la Racing sur la pelouse de Basse.
On revient dans un instant sur RMC. Vous ne raterez rien, bien évidemment, de toutes ces rencontres et de tous ces directs avec Sébastien Piocelle dans l'Intégral Sport. Restez avec nous, à tout de suite.
RMC Intégral Sport.
François Pinet.
Avec Sébastien Piocelle, l'Intégral Sport en direct. Il est 14h36. Et vous suivez Lille-Lorient pour l'instant 1-0 pour les Lillois. But de Jonathan David. On retourne à Lille, bien sûr, pour ce match de la 18e journée de Ligue 1 dans un instant. Le Racing mène 10-3. C'est la Coupe d'Europe de rugby. 3e journée. Les Racing Men qui mènent en Angleterre face à Basse. 10-3. C'est bien parti pour cette équipe du Racing. On va tout de suite prendre la direction de la Côte d'Ivoire, Sébastien, où se joue en ce moment la Coupe d'Afrique des Nations. Ça s'est lancé, tu le sais, hier avec la victoire de la Côte d'Ivoire face à la Guinée-Bissau, 2-0. Et en Côte d'Ivoire, on rejoint Gilbert Bribois. Salut Gilbert.
Salut les gars, bonjour à tous.
Salut Gilbert.
Il fait beau en Côte d'Ivoire. On a vu des joueurs qui avaient très très chaud hier là sur le terrain.
Par définition, c'est climat tropical, donc oui, il fait beau, il fait chaud.
Ça tranche avec ce que l'on vit actuellement.
Votre studio, c'est pas la même température. Enfin,
voilà. Donc je voulais juste dire que tu étais chanceux de suivre cette Coupe d'Afrique des Nations. Tous les soirs, tu présentes évidemment l'After Cannes. C'est après l'After à minuit tous les soirs jusqu'à 1h30 du matin en direct. Et puis le dimanche, c'est à partir de 1h du matin après le RMC Poker Show pour revenir sur tous les matchs de cette Coupe d'Afrique des Nations. La Cannes qui était très attendue, Gilbert, en Côte d'Ivoire, 40 ans après, j'ai l'impression qu'elle est bien lancée, cette Coupe d'Afrique des Nations. Le pays hôte qui gagne, l'ambiance au rendez-vous hier.
Oui, alors effectivement, l'ambiance Abidjan était en folie toute la nuit. C'est un événement que les Ivoiriens attendent depuis effectivement très longtemps. Vous savez, les Cannes, c'est toujours des événements dans les pays qui les accueillent parce que, on est quand même sur un continent pauvre, un pays pauvre, où les occasions de se réjouir, d'avoir des moments festifs, positifs, de partage, c'est pas tous les jours. Donc quand ils arrivent, on se lâche. Et ça a été le cas hier, vraiment super ambiance dans un pays qui adore le foot, donc les Ivoiriens, très sûrs d'eux d'ailleurs, un petit complexe de supériorité. Quand on est dans la rue, voit déjà la Côte d'Ivoire gagner la CAN. Et quand on a vu le match hier,
ils ont
vu une équipe flamboyante.
Il y a eu du travail.
Oui, Sébastien, je pense que tu es d'accord. Alors après, le match d'ouverture, c'est toujours un peu spécial parce qu'on est un peu crispé, on joue devant un stade plein, tout le pays attend, il y a le chef de l'État qui est là, donc il y a sans doute un peu de crispation, mais enfin, c'était pas extraordinaire ce qu'on a vu.
Ouais, sachant que justement, heureusement qu'ils ont marqué rapidement.
Ouais.
Du coup, ça, même si après, en termes de rythme, ça a été très compliqué après, avant le but de Crasso. Mais c'est vrai que sur un premier match, je pense que le plus important pour une équipe qui reçoit, c'est de gagner.
Et les Ivoiriens, Gilbert, qui veulent faire de cette CAN la plus belle de l'histoire. Voici les mots qui ont été prononcés. Et c'est vrai que quand on regarde le plateau, les stars qui sont présentes, elle est assez relevée. C'est difficile de dégager un super favori. Il y a plusieurs équipes qui peuvent prétendre à remporter cette compétition.
Oui, alors la plus belle CAN de l'histoire, c'est à la fois une belle intention, puis c'est un peu ridicule. C'est comme à l'époque quand Sam Arrange, ancien président du CIO, à la fin de chaque Jeux Olympiques, disait oui, ceux-là, c'était les plus beaux. Hein. L'essentiel, c'est que ça se passe bien. Et effectivement, on a 24 équipes. C'est un plateau très élargi maintenant depuis l'édition précédente. Et c'est compliqué d'avoir un énorme favori. Alors certains disaient la Côte d'Ivoire avoir la compétition. Évidemment, l'Algérie est là, même si elle a été éliminée au premier tour lors de la dernière CAN au Cameroun. Le Maroc est très attendu après sa demi-finale de Coupe du Monde. Le Sénégal est le tenant du titre. Rien qu'avec ces équipes-là. L'Égypte, qui est toujours très performant au niveau africain, et en plus Salah n'a jamais gagné la CAN. Il a fait deux finales perdues.
Ouais.
Donc lui, il a la dalle. Donc tous les pays que j'ai cités là font partie des grands favoris. Sans doute que ce sera un de ceux-là. Après on a des équipes aussi qui sont un peu plus en difficulté. Le Nigeria est en galère, pas mal de forfaits. Le Ghana, on ne sait pas trop où ils en sont. Puis ils sont toujours avec les frères Ayou qui sont là et qui sont maintenant plus très jeunes.
Des frères plus jeunes.
Plus très frais. Voilà, non mais il y a Kudus quand même hein, qui est aujourd'hui la star du Ghana, Mohamed Kudus. Mais bah, c'est une cale effectivement assez ouverte et toutes les stars sont là. Alors, il y a souvent les polémiques, on en a parlé longuement dans l'after. Ouais, les clubs veulent pas libérer les joueurs, certains joueurs veulent pas y aller. Enfin, constatons quand même que toutes les stars sont là. Hein. Il y en a pas une qui veut pas venir à la CAN. J'ai parlé de Salah, Mané, Seko Fofana. On peut les passer tous en revue. Il manque personne. Mahrez, voilà, il manque personne. Ils sont tous là. Donc ça, c'est aussi important. Les Marocains sont tous là aussi. Donc pour ces gens-là, ça va être magnifique. La CAN passe au-dessus.
Ça va être magnifique aussi.
Ah bah oui, alors en plus ça tombe dans un espace-temps.
Vas-y.
Oui, et puis ça tombe dans un espace-temps intéressant parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais grâce au nouveau calendrier que nous a concocté notre ligue, c'est-à-dire en nous supprimant la Coupe de la Ligue en passant en 18, en janvier, il n'y a quasiment pas de match. Donc, la CAN va occuper avec cet après-midi, il y a 3 matchs, il y aura des journées à 4 matchs. Donc, vous allez pouvoir vous passionner pour la CAN. En plus, quand il fait froid et qu'en gros, on veut un peu se voyager, ne serait-ce que par l'esprit, regardez la CAN, vous allez voir des belles images, vous allez voir de la lumière, vous allez voir de la couleur et vous allez voir des beaux matchs de foot.
Super, et écoutez la CAN aussi, écoutez la CAN, c'est important sur RMC. Avec exactement. Toi Gilbert, l'After CAN, tous tes consultants, bien sûr. 1h30 hein, ce soir, hein, ça sera
exactement.
1h du matin, pardon, ce soir.
Exactement. Alors, ce soir, c'est 1h du matin. Alors, si vous ne pouvez pas l'écouter en direct, évidemment, le podcast sera disponible dans la nuit. Donc, vous pourrez demain matin écouter notre analyse des matchs du jour. Tous les soirs, After CAN, à minuit ou juste le dimanche, parce qu'il y a le RMC Poker Show de Daniel. On ne peut pas bouger le RMC Poker Show de Daniel. Ah bah c'est une institution. Donc, du coup, on vient à 1h du matin. Pour 1h30 d'analyse. Ce soir, Robert Malm sera avec moi. Puis, j'aurai d'autres invités surprises. Il y a pas mal. C'est parce qu'il y a pas mal d'anciens footballeurs qui ont pris du temps de vacances pour venir voir les matchs de la CAN. Voilà, et pas forcément que des ex-internationaux africains qui sont là. Djibril Cissé par exemple arrive. Il y a Kalilou Fadiga par exemple qui est là. Fabrice Pancrate est là, sans parler de tous les célèbres légendes du foot africain, les Adebayor.
Fabrice Pancrate, il est là plutôt pour faire la fête, je pense.
Roger Mia, Joseph Antoine Bell. Qui ça?
Fabrice Pancrate, il est là plutôt pour faire la fête, je pense. Enfin, on peut faire les deux. Hein,
pour regarder les matchs aussi. Les deux sont possibles.
Bon, peut-être qu'on t'enverra Sébastien.
On l'invitera dans l'After CAN ce soir.
Merci Gilbert, en tout cas. Merci beaucoup de nous faire vivre cette Coupe d'Afrique des Nations. On y va, Winnie.
Laissez du côté de Basse, effectivement. Basse qui a repris les commandes de cette fin de seconde partie de mi-temps. 35e minute de jeu. Et donc, l'essai collectif là, des en avant sur ballon porté après une grosse séquence offensive dans les 5 mètres du Racing. Et surtout, un Racing qui jouait à 14 contre 15, puisque Will Rowlands, le deuxième ligne anglais du Racing, vient d'être exclu pour une mauvaise entrée dans un ruck. Il a laissé donc ses coéquipiers en infériorité numérique alors qu'il y avait une pénalité en faveur de Basse dans les 5 mètres du Racing. Ça n'a pas manqué après plusieurs pick and go. C'est les avant qui, sur ballon porté, reste à voir exactement quel avant a aplati. Mais on aplatit ce premier essai du côté des Anglais. Pour l'instant, donc, Basse revient à 8 à 10 avant évidemment la transformation tentée par Ben Spencer, le capitaine et demi-mêlée de cette équipe. On est totalement sur la ligne de touche là, à gauche des perches du Racing, et il s'envole dans les airs. Ça a l'air un peu court, ça ne va pas passer. Donc on en reste pour l'instant à 8 pour Basse, 10 pour le Racing à la 36e minute de jeu. Deux petits points d'avance maintenant pour le Racing.
Parfait, Winnie. Dans un instant, on va vivre bien sur la fin du match entre Lille et Lorient, qui a du suspense, toujours 1-0. Juste, je vous rappelle, puisqu'on était avec Gilbert Bribois en direct de Côte d'Ivoire, le programme du jour à la CAN à suivre sur RMC: Nigeria, Guinée équatoriale à 15h. À 18h, l'entrée en lice d'un des favoris, l'Égypte de Mohamed Salah face au Mozambique. 21h, Ghana face au Cap Vert. Tous les jours sur RMC, un dispositif exceptionnel. La radio digitale aussi, RMC 100% CAN, 24h sur 24 jusqu'au 12 février, pour suivre l'intégralité de tous les matchs de la CAN avec nos émissions spéciales Coupe d'Afrique des Nations, également en direct sur YouTube comme Génération Africa 2024, et donc bien sûr l'After CAN avec Gilbert Bribois et son équipe de consultants tous les soirs après l'After RMC, radio officielle de la Coupe d'Afrique des Nations. La Ligue 1, Lille qui s'oriente vers une victoire pour bien redémarrer l'année en Ligue 1 face à Lorient. 1-0, mais il reste encore du suspense, c'est encore des minutes à jouer, Gibo.
Oui, parce qu'il n'y a qu'un 0 et encore 2-30 dans le temps réglementaire, avec un carton jaune là, mérité là pour Touré.
Il aurait pu laisser l'avantage, même lui donner après. Il y avait une bonne opportunité là pour Kabela.
Ah oui, non. Kabela d'ailleurs, hein, que ça t'avait fait en parler, c'est le seul changement pour l'instant effectué par Paulo Fonseca avec la sortie de Yazidche, donc poste pour poste, alors qu'il y a eu 4 changements du côté Lorienté. Et Lille n'est pas à l'abri, hein, de se faire surprendre, même s'ils sont pas dangereux les Lorienté, mais voilà, il suffit d'un corner, d'un coup de pied arrêté, et ça pourrait bien leur faire du bien aux Lorienté de prendre un petit point ici, même si on n'y croit pas trop, parce que Lille gâche énormément d'occasions en tête de Zegrova, le petit crochet sur la surface de réparation, il en fait trop le Kosovar. Il est un peu trop gourmand. Il fait pas mauvais match, mais il insiste un peu trop et un peu trop individualiste à mon goût.
On retrouve un peu le Zegrova de la saison dernière. Là, voilà. Sur ses 3-4 choix, là, notamment là, il y avait Kabela, hein, qui était en retrait. Il aurait pu la donner. Mais c'est vrai que pour revenir au Lorienté, dans l'analyse du match, tu te dis bon, ou alors ils peuvent pas faire mieux que ça. Mais franchement, il y a que 1-0, mais jamais ils ont essayé de mettre un peu de folie. Ils ont changé des joueurs sans changer de système. Puis à l'arrivée, bon, ça fait un match encore une fois très très moyen.
1-0, quoi. C'est miraculeux, ouais. Quand même, ça va.
Oui, c'est clair. Ouais,
franchement, mais... si ça fait 2-3, il y a pas scandale. Hein. Alors que là, attention avec une occasion lilloise, le ballon dans la phase de réparation, la déviation de la tête de Jonathan David, on se dégage comme on peut là de la part des merlus. Alors que au niveau météo, hein, on a eu pas mal de crachins, il y a eu de la neige ce matin et là c'est la neige fondue qui tombe. Goodmanson dans la phase de réparation, le centre et ça rentre pas. Si ça rentre, c'est Kabela. Et voilà le deuxième but qui va clore cette rencontre, puisque Lille mène désormais 2-0 grâce à un centre vraiment très fort de la part de Goodmanson. La défense lorientaise, bah, qui s'en mêle un peu les pinceaux. Jonathan David qui sait la mettre au fond des filets, c'est contré, mais ça finit dans les pieds de Rémi Kabela. Bon, on va dire coaching gagnant.
Ouais, un peu, mais il faisait plutôt une bonne rentrée, Kabela.
Oui,
mais deux buts en fin de mi-temps à chaque fois pour les Lorientais. Bon. Encore une fois, c'est un ballon perdu. Alors, c'est vrai que le pressing lillois, il est bon, hein, au départ. Mais un ballon perdu plein axe. Et puis derrière, bah, ils sont punis. Hein.
T'as rien à retenir dans ce match, en fait, quand tu es l'Orientais.
Bah ouais,
si, faut, Lille, en gros, t'as pas d'ambition.
Il faut essayer de donner le ballon à ses partenaires plutôt qu'à l'adversaire. En gros, tu peux retenir certaines choses.
A priori, ça quand même le
Mais bon, ils sont vraiment, vraiment en dessous de cette équipe de Lille qui, sans forcer, a dominé tout le match. Et à mon avis, ça sera contre des adversaires directs où il faudra qu'ils fassent un peu mieux ou beaucoup mieux. Mais je me répète encore, mais je vois pas comment, quand on voit le contenu des rencontres, des dernières rencontres de Lorient, comment ils peuvent s'en sortir. Il y a, même en termes d'état d'esprit, du supplément d'âme, il se passe rien.
Bah, tu changes plein de joueurs, et franchement.
Et ils vont en faire partir en plus, donc. Bon.
Ouais, non, franchement, ils sont dans une situation, mais d'une complexité terrible, plus
ça
plein de joueurs à la canne.
10 matchs sans victoire.
Ah, non, mais c'est.
D'affilée, toutes compétitions confondues.
3 minutes de temps additionnel, on vient d'y entrer là depuis quelques secondes. 2-0 hein, pour le LOSC qui va s'imposer et qui fait une bonne opération, car pour l'instant, ils reviennent à hauteur des Brestois. Voilà, il y a la différence de but en faveur des Bretons, mais ils restent accrochés dans les places européennes, les joueurs de Paulo Fonseca qui ont du temps d'ailleurs. Hein. Mmh. La Conference League et les 8e de finale, c'est pas avant le mois de mars, donc voilà.
C'est une bonne chose aussi, hein, qui s'évite les barrages.
Et match de Coupe de France, faut se méfier quand même du Racing Club de Paris, ça joue à Chambly dimanche prochain, mais ouais. Voilà, les Lillois qui démarrent l'année tranquillement 12-0 contre Golden Lion, les Martiniquais, et puis là ça fait 2-0 face à Lorient. Ils effacent un petit peu le match catastrophique du match aller, parce que rappelez-vous, Lorient n'a pas gagné beaucoup de matchs, mais ils avaient tapé Lille 4-1,
ils ont gagné 2
dont effectivement le match aller contre Lille qui revient à hauteur de Brest, 31 points, alors que Brest joue tout à l'heure là, à partir de 15h sur RMC face à Montpellier. Ils reviennent à 2 points de Monaco et à 4 points des Niçois, les deuxièmes du classement. C'est bientôt la mi-temps du côté de l'Angleterre pour le match entre Bath et le Racing 92, troisième journée de Coupe d'Europe. Winnie.
Et oui, on a passé la 40e minute de jeu et les Racing mènent en bien mauvaise posture, puisque c'est Bass qui a la main sur le ballon et qui est rentré dans les 22 mètres du Racing. On est quasiment face aux perches. Et pour l'instant, les avants qui continuent de pilonner la défense du Racing, qui reste organisée, mais qui a bien du mal, hein, face aux assauts, notamment de cette charnière bien malicieuse. Ben Spencer et Finn Russell, on connaît, hein, les coups de pied qui désorganisent
le
totalement les défenses.
Il est magnifique! Ah oui. C'est Grosvin, frappe! l'arrière de la surface de réparation. Une frappe au moins de 22-23 mètres. Petit filet intérieur. Elle était tellement bien placée qu'Mbogo ne pouvait rien faire.
Bon, voilà. Et attention, c'est... parce que là aussi, on va avoir un essai, mais c'est celui du Racing. Peut-être avec Nolan Le Garec, le demi de mêlée qui pourrait marquer en doublé dans cette. Il va peut-être la passer. Alors, il a été rattrapé là par un trois quarts, mais c'est Henri Arundel, l'ailier, qui va se donner un petit coup de pied à suivre, mais ça va aller en ballon mort. Oh, on y a cru là, ce retournement de situation à la 42e minute de jeu. Ça y est, c'est donc la mi-temps ici. Pour l'instant, le Racing qui mène de deux petits points, 10 à 8 sur la pelouse de base du Recreation Ground. Et cette, ce renversement, cette interception du demi de mêlée, Nolan Le Garec qui a cru hein, un doublé dans cette partie. Il a dû la donner à Henri Arundel, son ailier. Mais voilà, le petit coup de pied derrière est parti en ballon mort. On s'arrête pour l'instant là. On sent que Stuart Lancaster, le coach anglais du Racing, va remonter quelques bretelles pour essayer de revenir un petit peu plus fort ici en Angleterre.
10 à 8 pour le Racing donc à la mi-temps face à Basse. Merci beaucoup Winnie, la suite de cette rencontre bien évidemment à suivre dans l'intégral foot avec Benoît Boutron. C'est fini à Lille, Lille qui s'impose face à l'Orient.
Ouais, 3-0 voilà, la fin du match qui était totalement récompensée pour les Lillois qui ont dominé pendant très longtemps avec ce score de 1-0, puisque l'ouverture du score est pour Jonathan David à la 38e. Le Kabela qui met le deuxième, 90e, on l'a vécu il y a quelques instants. Magnifique frappe de Dedon Zegrova à la 92e. Bah, égalité parfaite avec Brest hein, qui joue tout à l'heure. Mais ouais, même différence de but, même stat, même nombre de points. C'est passionnant. En tout cas, logique victoire des Lillois. Inquiétante défaite pour Lorient dans le quai du maintien.
Merci beaucoup Gibo. À très bientôt sur RMC. À suivre à 15h. Nantes, Clermont, Metz, Toulouse. Toulouse, Brest, Montpellier avec Sébastien Piocel, bien sûr tu restes hein, pour être avec reste, Benoît ouais. Boutron dans l'intégral foot dans un instant. Un petit détour par le biathlon Ruhpolding en Allemagne avec c'est parti la poursuite messieurs, Julien Richard.
Ouais, c'est pas super bien parti pour Emilien Jacquelin qui était parti en quatrième position. On reprend les écarts du sprint, vous le savez, il s'était lancé avec 21 secondes de retard sur Vettel Christensen, mais malheureusement il a commis une erreur sur le premier tir alors que tous ses concurrents ont réalisé le tir parfait. Il est ressorti en sixième position, il est pas loin hein. 35 secondes de la tête de course, occupé toujours par le Norvégien Vettel Christensen.
Merci beaucoup Julien. La suite avec Benoît Boutron, l'intégral foot tout de suite sur RMC avec trois matchs de Ligue 1 au programme, vous l'avez compris, la Coupe d'Afrique des Nations également et la suite de la Coupe d'Europe de rugby. Bel après-midi à tous sur RMC.
RMC, intégral foot Ligue 1.